I'm afraid of this one. Et puis là, d'un seul coup, ben voilà, dans la méditation, on est assis, et puis il ne se passe rien. Il ne se passe rien du point de vue de l'activité extérieure, du moins, mais intérieurement, il va se passer plein de choses. Donc on a parlé tout à l'heure la chose la première qui va s'élever en nous, c'est bien sûr, c'est le désir attachement. Et là, on va voir vraiment que nous sommes attachés à beaucoup de choses. Nous sommes attachés à l'activité, à certaines formes d'activité, certaines tâches, à certaines personnes, à certaines situations, et tout ça, on va voir justement que cette activité d'attachement, ce sentiment d'attachement nous accompagne finalement au quotidien et on ne s'en rend pas vraiment compte, on n'a pas le recul suffisant. La méditation nous amène cette capacité à avoir du recul sur ce qui s'élève en nous, d'avoir conscience de cela pour pouvoir travailler avec et puis prendre du recul par rapport à cela. C'est-à-dire, bah oui, mais je suis attaché à tant de choses, etc. Comment ça se fait? Je suis dépendant de ceci, dépendant de mon travail, dépendant de l'argent que je gagne, de mes biens matériels, je suis dépendant de mon conjoint, ma conjointe, de mes enfants, etc. Et puis ça n'en finit pas, quoi. Alors, et on va se rendre compte de tout ça. Et puis, je suis attaché à mon propre corps aussi, voilà. Je me suis identifié à ce corps. Oui, mais ce corps, c'est pas moi. Ce corps, c'est un véhicule qu'on a pris au moment de la naissance, mais ce n'est pas ma personne. Ce n'est pas moi, mon essence, l'essence de l'esprit, c'est pas ça. C'est pas ce corps. Parce que si on pense que je suis identifié à ce corps, on a peur forcément de la mort, du vieillissement, de la mort, de la maladie. Et puis on s'imagine qu'une fois qu'on va être mort, ben, il n'y aura plus rien, ce sera le néant. Parce que le corps sera dissous, hein, il aura disparu, il sera devenu redevenu poussière, comme on dit dans la Bible, et il ne restera rien. Or, évidemment, il faut comprendre que notre nature fondamentale, ce n'est pas ce corps. Ce corps n'est qu'un assemblage de composants, d'agrégats psychophysiques qui se sont rassemblés à un moment donné, au moment de la procréation, la création de ce corps. Et cet assemblage est le fruit de notre karma passé, des souhaits peut-être qu'on a fait, mais aussi de tous nos états émotionnels, notre activité passée, l'attachement justement au fait d'avoir un corps, d'avoir besoin d'avoir un corps pour satisfaire tous nos désirs, satisfaire nos tendances émotionnelles, etc. Mais ce corps, c'est pas parce qu'il va disparaître qu'il n'y a plus rien. Ce qui reste, c'est l'esprit. L'esprit lui-même est indestructible. L'esprit, il est énergie, mais il est bien plus que ça. C'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Hein? D'ailleurs, même les Bouddhas le disent. Les Bouddhas ne peuvent pas expliquer ce que c'est que l'esprit parce qu'il est au-delà de toute conceptualité. Il est ni ceci, ni cela, ni pas ceci, ni cela, ni pas cela, ni les deux à la fois, il est indéfinissable, c'est au-delà de toute conception, toute imagination, cependant il se manifeste cet esprit. Il se manifeste à travers la conscience, à travers la vie tout simplement. Donc la méditation progressivement va nous permettre de nous désidentifier à ce corps. Et forcément, à l'attachement que l'on a à notre corps. Et si ça ne veut pas dire qu'on va négliger notre corps, on en a besoin. Hein, c'est comme une voiture, mais une voiture, il faut l'entretenir, il faut la faire réparer, il faut mettre du carburant, changer les pneus, et à ce moment-là, on a les pneus d'hiver. Et puis un jour, la voiture, elle sera morte, on la mettra à la casse, et c'est pas pour ça que la vie continuera pas. Ben, notre corps, c'est un véhicule. Dans cette vie, c'est tout que l'on a, qui est là. Ce véhicule va nous servir le temps de la vie que la vie dont on dispose. Donc, et on va comprendre ça progressivement. Dans la méditation, on va comprendre aussi que tout est impermanent. Donc, même moi, mes états d'esprit sont impermanents. C'est-à-dire que le matin, je peux penser à quelque chose, être d'accord avec cette chose-là, et puis le soir, se dire, bon, non, finalement, j'étais d'accord ce matin, mais je ne le suis plus ce soir. On trouve quelque chose de mauvais le matin, et puis le soir, c'est complètement différent. On a l'esprit qui est très instable. Nos pensées sont instables, et on est fait de tout ça. Donc le corps lui-même est instable, les pensées sont instables, nos sentiments sont instables, l'appréciation de nos sens aussi, la vie que l'on a sur toutes nos sensations, tout ça c'est instable. Donc tout est impermanent, il n'y a rien qui ne peut être fixé comme étant définitif dans ce monde. Ça, c'est autant de prise de conscience qu'on va avoir dans la méditation. Mais si on ne fait pas ça, si on ne se retire pas à un moment donné, comme ça, en retraite, on n'aura pas vraiment l'opportunité d'avoir conscience de ça, de l'intégrer vraiment. Donc il dit, ça va nous permettre de détourner notre esprit de la perception ordinaire ou de la saisie de cette réalité, ce qu'on prend pour réel, pour définitif, en la reconnaissant dans sa dimension de vacuité primordiale. Cette vacuité étant non conceptuelle, non duelle. L'attachement au concept est ce qui crée la croyance en la réalité et en la matière. C'est extrêmement profond. Alors évidemment, d'emblée, comme ça, on ne peut pas vraiment... Bon, on a peut-être une compréhension intellectuelle, mais en profondeur, il faut l'expérimenter dans la pratique. Et cette connaissance, elle viendra dans la pratique, mais à condition de persévérer, bien entendu, dans cet exercice-là. Il ne s'agit pas, comme je l'ai déjà dit, de faire une méditation comme ça une fois de temps en temps, quand on y pense, quand on attend. C'est tous les jours, et tous les jours, et tous les jours. La retraite, c'est une chose, on peut se mettre en retraite de temps en temps, mais la pratique de la méditation, ça doit être tous les jours, tous les jours. Même si on peut consacrer qu'une demi-heure ou un quart d'heure, c'est tous les jours. Et il n'y a que comme ça que les choses peuvent changer et qu'on peut approfondir la réalité de ce qui est, à la fois de notre esprit, mais aussi des apparences. Parce que qu'est-ce qui crée les apparences? C'est notre esprit. Il n'y a rien en dehors de l'esprit. Tout est esprit. Rien ne peut apparaître en dehors de l'esprit. L'esprit, c'est toute la manifestation. Et l'esprit, on ne peut pas expliquer ce que c'est. On peut que réaliser sa nature, mais on ne peut pas l'expliquer. Tout est projection de l'esprit. Tout ce que je vois en ce moment autour de moi, c'est une projection de mon esprit. Quelqu'un qui serait ailleurs ne verrait pas la même chose que moi. Vous voyez, c'est peut-être difficile à concevoir, évidemment, d'emblée, mais tout ça, cette compréhension va nous amener, c'est la pratique qui va nous amener à comprendre ça. Alors, évidemment, là, j'ai parlé du désir à l'attachement, mais il n'y a pas que ça qui va s'élever, il y a tous les cinq poisons qui vont s'élever dans la pratique. Il va y avoir l'aversion, et on va découvrir justement que l'émotion dominante, peut-être en nous, ça va être plus l'aversion. Mais de toute façon, dès qu'il y a du désir en nous, il y aura forcément de l'aversion. C'est obligé. S'il n'y a plus de désir, il n'y a plus d'aversion. L'aversion, c'est la colère, c'est la haine. Hein, et la haine, l'origine de la colère et de la haine, c'est le désir qui est inassouvi. C'est le désir qui est frustré. Donc si on a travaillé suffisamment sur le désir, on en a vu la vacuité, forcément ça va faire disparaître la colère, l'aversion et la haine. Mais quelquefois, d'emblée, ce qu'on va voir, qui va ressortir le plus, et dont on va avoir conscience, c'est que je suis souvent en colère. Voilà. Ça a été ça pour moi, par exemple, pour mon expérience. Et j'ai vu, à travers le travail intérieur, que, pourquoi j'avais de la colère? Ben, c'est parce que j'avais beaucoup de désir. C'est ce qui va ressortir dans la pratique. Et dans ce cas-là, lorsque ce qui va s'élever dans la méditation par rapport à la colère, cette colère nous appartient. Parce qu'en règle générale, quand on a de la colère, c'est toujours de la faute de. Voilà, faute de. Faute d'un tel, d'un tel qui ne m'aime pas, ou un tel qui m'a fait une vacherie il y a quelques années, ou parce que cette situation ne correspond pas à ce que j'ai désiré, ce que je veux moi-même. Mais c'est toujours la faute des autres. Hein? Et donc, évidemment, tant qu'on est dans cette dynamique-là, on sera toujours en guerre contre les autres. Parce qu'on les rend responsables de notre colère, de notre mal-être. Et on ne résoudra jamais le problème comme ça. Et c'est comme ça que le monde fonctionne en ce moment. Il suffit de regarder comment fonctionne le monde. C'est exactement ça. C'est la faute des Palestiniens, les Palestiniens disent c'est la faute des Israéliens, les Israéliens disent mais non, c'est le Hamas, le Hamas va dire non, c'est les Américains, c'est toujours la faute des autres, et comme ça, ça nous évite de voir nos propres problèmes. Tant qu'on reporte la faute de notre mal-être sur les autres, on est dans l'incapacité de voir l'origine de notre mal-être, et de l'origine de notre mal-être, il n'est pas à l'extérieur de nous. C'est en nous, l'origine est en nous. Et les pratiques, justement, nous amènent à ça. Les pratiques de retrait et de pratiques de méditation nous amènent à comprendre comment ça fonctionne. C'est que le monde n'est pas responsable de rien. Le monde n'est pas responsable de nos états émotionnels, de nos états de souffrance et d'affliction. C'est nous-mêmes qui le créons, ça. Et plus on va pratiquer dans ce sens-là, plus on va se libérer de cela, et bien on va se rendre compte qu'il n'y a pas d'ennemis. C'est nous qui les créons, qui projetons à l'extérieur des ennemis. Quand on a suffisamment travaillé là-dessus, on n'a plus d'ennemis, parce qu'il n'y a plus de dualité. Ça, c'est un peu complexe à assimiler. Mais c'est pour ça qu'il faut pratiquer, sinon on n'aura pas cette sagesse, cette connaissance. Là, on ne l'aura pas. Et alors, si l'émotion dominante qui s'élève en nous, donc c'est l'aversion, ou la colère, par exemple, la haine, eh bien, il va nous falloir méditer sur l'amour, l'amour pour les êtres. L'amour, c'est l'inverse, justement, de la colère, de la haine. Et de la colère, la haine, bien sûr, amène à la violence, vous avez bien compris. On voit bien comment ça se passe à l'extérieur. Puis en nous, on a ça, nous-mêmes. Cette racine, on l'a, ces poisons, on a justement ça. Et la cause de ça, c'est l'ignorance. L'ignorance de la manière, de la connaissance de notre esprit, on ignore ce qu'est l'esprit, on ignore le fonctionnement des causes et des effets, on ignore le fonctionnement de l'attachement au sens, etc. Il y a une ignorance fondamentale qui est derrière. Et c'est pour ça qu'on est dans un cercle. Et à chaque fois, on produit les mêmes causes, on a les mêmes résultats, même cause, même résultat. Et c'est ce qu'on appelle en sanskrit le samsara, c'est-à-dire le cycle de la souffrance qui est sans cesse recommencé. On produit sans cesse, à cause de cette ignorance, les mêmes causes de souffrance et on a toujours les mêmes résultats. Et c'est sans cesse de vie en vie et de vie en vie. On est prisonnier de ce fonctionnement-là. On n'arrive pas à sortir de ça parce qu'il y a quelque chose qui nous manque. Et pour pouvoir trouver cette chose, cette connaissance, cette sagesse qui nous manque, c'est la pratique qui va amener à inverser notre façon de voir les choses, de comprendre les choses, à la fois en nous-mêmes et le monde. Tous les êtres sont soumis à un état de souffrance. C'est la nature du cycle des existences et dans notre monde humain, c'est comme ça. Plus ou moins. Il y a des gens qui souffrent plus ou moins, ben, ça dépend de leur karma, mais toujours pareil. Il y a des gens qui sont malades et qui sont nés, il y en a qui n'arrivent même pas à naître en vie, et ils meurent dans le ventre de leur mère. D'autres, ils meurent à 4 ou 5 ans, ou plus tard, ou à la fleur de l'âge. Il y en a qui sont malades, ont des maladies chroniques, qui ont des problèmes. Puis d'autres, ça va mieux, c'est moins de soucis, etc. Et tout ça, c'est lié, évidemment, à nos activités passées. On a créé les causes de ça et on ne s'en rappelle plus, bien sûr. Mais il n'y a jamais rien pour rien. Rien n'arrive de rien. Tout a une cause qui l'a précédé. C'est comme ça que ça se passe dans le monde. Que ce soit dans la nature, que ce soit au niveau de l'esprit, au niveau de la souffrance ou du bonheur. Il y a une cause qui a créé le bonheur, une cause qui a créé la souffrance. Mais d'une manière générale, dans ce monde, tous les êtres sont soumis à cette affliction, à cette souffrance-là. Ne serait-ce que la souffrance de la naissance dans un corps fait de chair et de sang, mais la souffrance aussi de la décrépitude, de la maladie et de la mort. Donc la souffrance est inhérente. Le mal-être et la souffrance est inhérente à notre condition humaine. Mais on peut en sortir. Et c'est bien ce que le Bouddha d'ailleurs a enseigné à travers les quatre vérités des êtres nobles. C'est d'ailleurs un enseignement que j'ai donné ici sur plusieurs années. Pour les personnes qui étaient là, on peut s'en rappeler de ça. Et d'ailleurs, il y a tous les transcripts qui ont été faits, il y a les enregistrements, où d'abord Vincent. On a tout ça à notre disposition, on peut étudier évidemment tout ça. Mais rien n'arrive de rien. Et nous sommes nous-mêmes à l'origine de notre propre souffrance ou de notre propre bonheur. C'est comme ça, et c'est pas de la faute des autres. Les gens, c'est toujours de la faute des autres. Si je suis malheureux, c'est de la faute de mes parents, c'est de la faute de ceci, de cela, c'est de la faute de mon conjoint qui ne comprend pas, mes enfants qui me pourrissent la vie, c'est la faute de mon patron qui m'exploite, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de... Et puis quand on n'a plus d'arguments, c'est de la faute de Dieu. Ah bah ouais, mais on ne s'est pas posé la question un jour ou l'autre de savoir si on n'y était pas pour quelque chose maintenant. Alors, tant qu'on est dans cette dynamique-là, il n'y a rien qui peut changer. Donc il y a un retour à l'intérieur, une introspection à faire pour voir quelle est l'origine de notre mal-être, dans notre fonctionnement. Amen. Donc afin de remédier à cela, donc, on va faire aussi des souhaits, parce qu'on sait que tous les êtres souffrent comme nous, ont les mêmes conditions difficiles que nous. On va faire des souhaits aussi pour que ces êtres rencontrent les conditions propices à leur libération. C'est-à-dire que plus on va pratiquer, plus on va entrer en nous-mêmes et voir comment ça fonctionne pour nous, et on va se rendre compte finalement que tous les êtres fonctionnent de la même façon. Donc là, on va se dire, moi je veux m'en sortir, je veux résoudre ce problème-là, mais je souhaite aussi que tous les êtres fassent la même chose. Parce que ça n'aurait pas de sens que moi je me libère de la souffrance et que les autres continuent à souffrir. Ça, c'est donc l'état d'esprit de ce qu'on appelle le bodhisattva, celui qui voue sa vie complètement au bienfait des êtres. Parce qu'il n'y a pas d'éveil possible sans emmener tous les autres êtres avec nous sur la voie de l'éveil. On ne peut pas atteindre l'état de Bouddha si on veut s'en sortir tout seul et puis on laisse les autres continuer à galérer. Ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas atteindre l'éveil. On doit parcourir le chemin et aider les autres à faire la même chose. Et c'est le but de l'enseignement. Hein. Quand le Bouddha a enseigné, il était motivé justement par cela. Lui s'était complètement libéré de la souffrance et il voyait que les êtres autour de lui, évidemment il était omniscient, donc il voyait tous les mondes, il arrivait à voir le karma de tous les êtres en même temps, enfin c'est incommensurable pour nous. Il avait toutes les connaissances et lui, il était animé par une profonde compassion. Et il s'est dit, bon, ben, on va essayer de les aider. Donc il a enseigné, il a donné différents cycles d'enseignement au cours de sa vie, jusqu'à l'âge de 80 ans. Il est mort à peu près à cet âge-là. Donc, mais il a fait que ça toute sa vie, par compassion. Il s'est dit, mais il faut que je les sorte de là, ces gens-là, parce que ça, je ne supporte pas qu'ils continuent à souffrir. Donc plus on va avoir cette compréhension de nous-mêmes, plus automatiquement ce qui va se développer, normalement, c'est l'amour à la compassion. C'est quelque chose qui est naturel, parce que cet amour et compassion, cette compassion, ce n'est pas quelque chose qu'on va fabriquer. C'est la nature même de notre esprit. Et plus on va purifier notre esprit, plus on va purifier les voiles qui recouvrent notre esprit, qu'est-ce qui va émerger naturellement? C'est les qualités de l'esprit. L'omniscience, l'amour, la compassion, etc., etc. C'est naturel, on a tout ça en nous. Donc il n'y a pas besoin d'aller chercher ça sur une planète, d'aller sur Mars et tout ça, où il y a des cailloux, on dépense des milliards. On est là-bas pour résoudre nos problèmes, on ne résout rien du tout. Ça nous crée que d'autres problèmes. Non, tout est ici. Parce qu'en fait, tout est fabriqué par l'esprit. Si on change notre mode d'esprit, nos états d'esprit, on change notre compréhension, notre profondeur, et plus on purifie l'esprit des voiles qui le recouvrent, qui nous empêchent de voir la réalité, mais plus on va la voir, et cette réalité elle va émerger de manière naturelle. Donc la bonté, la compassion, l'amour, la générosité, toutes les qualités dont il a été question à travers ces six paramitas vont se développer d'elles-mêmes à travers la pratique. Et c'est ce qui va faire qu'on va acquérir la sagesse. La sagesse, ça veut dire qu'on va voir les choses telles qu'elles sont, et non pas telles que nous croyons qu'elles soient. Ça va être la vision directe de la réalité des choses. Un Bouddha, lui, il n'a pas de pensée, un Bouddha. Il est en prise directe avec la réalité. Un Bouddha, il ne fonctionne pas sur un mode duel. Il est branché en direct sur la réalité. Donc, parce qu'il est omniscient. Ça ne passe pas par le filtre de l'intellect et du mental chez un Bouddha. Et donc, ses actions sont forcément toujours justes et parfaites. Et je sais de quoi je parle, puisque moi, j'en ai fréquenté des Bouddhas, et entre autres, mon maître en était un. Quand mon maître disait quelque chose, même s'il n'était pas content, on se rendait compte à un moment donné qu'il avait raison. Il avait toujours raison. Toujours. Parce que le fonctionnement n'est pas le même que nous. Et pourtant, il n'y a pas de différence entre un être réalisé et un être qui est paralysé. La seule différence, c'est qu'il y en a un qui a purifié son esprit, hein, et l'autre n'a pas encore fait. Alors, si, donc, comme je disais, on se rend compte qu'il y a beaucoup de colère en nous-mêmes, on va prendre pour référence l'être qui nous est le plus cher, tel que notre mère, par exemple. Et nous l'imaginerons, notre mère, sous l'emprise de nombreuses souffrances, de maladies, de tortures, de tourments, etc., jusqu'à ce que nous ayons une vision claire de cela. Et ainsi, nous développerons cette méditation jusqu'à ce que cette souffrance nous devienne intolérable. Ça, c'est les exercices que nous devons faire. Nous comprendrons alors la nécessité, bien entendu, de tout mettre en œuvre pour faire disparaître cette souffrance. Puis ensuite, nous allons élargir notre méditation vers les êtres pour lesquels nos sentiments sont mitigés, puis vers ceux qui nous sont indifférents, peut-être les habitants de notre quartier, si possible, de notre village, de notre ville, de notre pays, etc. Et plus encore, notre planète, tous les êtres humains, et ensuite les différentes directions de l'espace, où il y a des êtres partout, dans d'autres mondes que nous ne voyons pas. Et ainsi, notre méditation va prendre vraiment une dimension illimitée, qui va s'ouvrir à l'amour pour tous les êtres sans exception. Et de cette manière, nous apercevrons qu'il n'y a plus d'objet pour entretenir cette colère, et que finalement, elle est totalement inutile, cette colère. Et ça, nous y arriverons que si nous rencontrons nous-mêmes ce que nous avons toujours fui toute notre vie et toutes nos vies passées. Parce que comme nous voulons toujours que du bon, du bien, de la réussite, du merveilleux, etc., et tout ce qui ne va pas, tous les conflits, les difficultés, tout ça, nous les rejetons, on ne veut pas les voir, on se cache les yeux pour ne pas voir ça. Tant qu'on est dans ce fonctionnement-là, on n'arrivera jamais à sortir de ça. Nous devons nous confronter à toute la réalité de ce que nous sommes dans notre vie quotidienne, c'est-à-dire nos moments de bonheur, nos moments de lucidité et nos difficultés, nos moments de souffrance. Il ne s'agit pas de fuir la souffrance, il s'agit de la rencontrer en face. Voilà, je pourrais dire les yeux dans les yeux, de travailler avec. Parce que si nous ne voulons pas rencontrer notre souffrance et l'accepter, nous ne pourrons pas mettre en application les remèdes pour la transformer. Donc c'est ça aussi qui est important. Savoir que bien que nous ayons aussi la nature de Bouddha en nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas quelqu'un de toujours clean, linéaire, bon, aimant, etc. Donc, et que nous avons toute une histoire en nous, et nous avons des souffrances pour X raisons. Après des causes, et ben, il faut le reconnaître. Voilà. Et puis il faut travailler avec, il faut se repousser des manches pour travailler avec. Et la conscience qui naîtra, évidemment, tout cela, ça sera la nécessité d'accomplir le bien des êtres, sans aucune distinction de bon, de mauvais, de proche, de lointain, etc. Ce sera la dimension universelle de l'amour. Non, pas du même amour que l'amour humain. L'amour humain, il est très, très partial, et on va aimer que les êtres qui nous sont proches, qui nous sont chers, puis les autres, on s'en fout. Ici, il s'agit d'un amour vaste et infini. Et ce n'est pas un amour qui est fondé sur un état émotionnel. C'est un amour réel qui est fondé sur l'état de sagesse de l'esprit. C'est-à-dire que cet état de sagesse, il n'est pas fait d'attachement. Nous, l'amour qu'on connaît, c'est l'amour-attachement, qui amène toujours que des galères. Dans cet amour-là, il n'y a justement pas l'attachement, il y a une vision vaste et infinie. Voilà. Et on va aider tout le monde de la même manière. Il est dit qu'il n'y a pas de négativité plus grande que la colère. Et il n'y a pas de plus grande qualité que la patience et la tolérance vis-à-vis de la colère des autres. Ah ! Ça nous ramène à la troisième paramita, la patience. Là, c'est là, du boulot, hein. Et curieusement, quand on fait preuve de patience, on se rend compte que les choses se résolvent assez facilement. Faites-en l'expérience et vous verrez. Et tant qu'on est en colère, on crée des difficultés, on crée des parasites dans la vie quotidienne. Certes, on peut se trouver face à des situations difficiles, mais s'il y a quelqu'un qui est en face de vous et qui est en colère après vous, et que vous-même vous répondez à la colère par la colère, là ça va mal se terminer. Hein? C'est comme deux électrodes, hein, le plus et le moins qui sont en face, on envoie le jus, et puis plus on monte la tension, plus on monte, ça va flamber à un moment donné, les deux électrodes vont se brûler, vont disparaître, vont fondre. Ben, la colère, ça amène à ça. Donc ce qu'il faut faire, c'est justement amener cette idée dans l'esprit que cette personne qui est en face de moi, qui me veut du mal, qui me fait des embrouilles, etc., c'est quelqu'un qui est mal dans sa vie. Quelqu'un qui est bien dans sa vie, c'est quelqu'un qui n'est pas en colère. Voilà. On va s'imaginer, en effet, peut-être que c'est ma propre mère, mon propre père qui est en face. Enfin, comment pourrais-je lui nuire ou leur nuire? Donc je suis patient, on va attendre. Alors, évidemment, si la personne nous saute dessus pour nous castagner, là, on va essayer de se protéger d'une certaine manière, mais ça ne sera pas en rentre pour coucou, pour coucou, et nous-mêmes développer de la colère et de la haine. Donc la patience, bien souvent, et l'amour, la compassion qui va émaner de nous-mêmes va permettre à la personne en face de nous de faire descendre sa colère. C'est ce qui va permettre justement à cette personne de se calmer. Ça, on peut l'expérimenter dans la vie quotidienne. C'est pas facile, hein, je dis bien, mais c'est un entraînement. Donc, et cette notion, bien sûr, de patience, elle est étroitement liée au développement de l'amour envers autrui. Ainsi, lorsque nous aurons donc intégré cet aspect de la patience, l'amour pour tous les êtres sera prêt. C'est curieux parce que ça fait des miracles, ça. Je prends toujours un exemple d'une propre expérience personnelle. Avant, quand j'étais dans l'activité, j'étais pas encore moi, il y a longtemps, j'avais une entreprise à faire tourner, etc. Il y avait toujours un problème d'argent, il fallait tout le temps aller à la poste pour déposer des chèques, etc., à la banque. Et puis, ça, c'était pas si moderne que maintenant. Il fallait faire la queue, et puis à chaque fois que j'arrivais, j'étais toujours pressé, et puis il y avait un monde qui attendait, il fallait que j'attende, que je fasse la queue. Alors j'avais des boules, bien entendu, j'ai des rendez-vous. Ça me barre, qu'est-ce que c'est que tous ces gens qui sont là, et ce type qui est là au guichet qui n'en finit pas, qu'est-ce qu'il fout, et puis on ne termine pas avec la guichetière, puis cette vieille qui est devant moi, qu'est-ce qu'elle vient foutre là à cette heure de la journée, elle ne peut pas venir à un autre moment. Alors évidemment, ça envenime les choses, parce qu'il n'y a rien, ça ne résout rien, puis à un moment donné, on va éclater, on va insulter tout le monde. Vous voyez l'histoire. Bon. Si on commence à relativiser les choses et se dire, ah ben oui, mais ce monsieur qui est là-bas au guichet, peut-être que c'est un chef d'entreprise aussi comme moi, il vient déposer les chèques pour payer les salaires de ses employés. Cette vieille dame qui vient là, elle vient chercher sa retraite parce qu'elle n'a pas d'argent pour vivre. Elle a besoin de cet argent-là. Quand on commence à approfondir ça, à développer justement cette patience, cette compassion vis-à-vis des gens, la compréhension de ce que vivent les gens, la colère en nous va diminuer. Et on va se rendre compte que d'un seul coup, on est au guichet nous-mêmes. Par miracle, on est arrivé, tout s'est fait avec une facilité incroyable. L'expérience nous a amené à vivre des situations comme ça. Moi, c'est du vécu, donc je sais de quoi je parle. Donc après, on comprend que justement, à la colère, on n'arrange rien, que si on arrive à calmer l'esprit, à maîtriser nos états émotionnels grâce à la méditation et avoir une autre vision des choses, eh bien, ça résout beaucoup, beaucoup de problèmes dans le monde. Et si tout le monde faisait ça, eh bien, notre monde se porterait mieux. Donc, vous voyez, c'était des remèdes que nous pouvons appliquer par rapport à la colère, l'aversion, etc. On a vu pour le désir aussi. Le désir, ben, c'est comprendre que tout est impermanent et que voilà, on n'a pas à s'attacher à des choses finalement qui sont là que provisoirement, que tout se détériore. Et maintenant, ben, si on voit que nous constatons notre émotion dominante est l'ignorance ou l'aveuglement mental, ça c'est beaucoup plus difficile, nous développerons la réflexion sur l'origine interdépendance des phénomènes et sur la production conditionnée. Alors là, évidemment, je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet parce que c'est un enseignement à lui tout seul et puis c'est très profond. Mais ça veut dire que il y a un enchaînement sur les choses. Comme j'ai dit tout à l'heure, rien n'arrive de rien, tout est produit par une cause. Et si on comprend l'enchaînement des causes et des conditions, et qui amène justement au fait d'obtenir un corps humain comme le nôtre qui est voué aux souffrances fondamentales de la naissance, du vieillissement, de la maladie et de la mort, on arrive à comprendre tout le mécanisme. Et ce mécanisme, on peut le remonter. Le remonter jusqu'à la source et on va se rendre compte que la source même, c'est l'ignorance. L'ignorance, ça veut dire, c'est pas de savoir, pas savoir lire, écrire, compter, etc. C'est pas de cette ignorance-là dont on parle. C'est l'ignorance de la nature des choses, de la nature de l'esprit, du fonctionnement de l'esprit, du fonctionnement des phénomènes qui sont une projection de l'esprit. Donc à ce moment-là, on comprend toute la mécanique. Et on va forcément, à ce moment-là, travailler sur cet aspect d'ignorance. Les conditions d'ignorance sont qu'elle agit comme une cause et que le monde extérieur agit comme une circonstance. Et de l'union de cette cause et de cette circonstance apparaît le désir, la volonté d'agir sur ces circonstances. Et en dépendance de cette volonté apparaît la naissance, puis le vieillissement, puis la mort. Et à cause de la vieillesse et de la mort apparaissent le chagrin, les lamentations, la douleur physique, la douleur mentale et le désespoir. C'est ce qu'a enseigné le Bouddha, durant son premier enseignement sur le cas d'hérité des nobles. Il a enseigné 42 jours après son éveil à Sarnath, donc au parc des gazelles, à ses 5 premiers disciples et ses 500 arhats aussi qui sont venus près de lui pour écouter son enseignement. Il a enseigné tout ça. Donc après, évidemment, c'est à nous d'approfondir tout cela. Et c'est à partir donc de la fixation égoïste d'un moi, d'un je, que tout ce que nous accomplissons mûrit sous forme de souffrance. À partir du moment où nous exprimons l'absence de moi, l'absence d'ego, si vous préférez, la souffrance cesse. C'est à travers l'absorption méditative que nous réaliserons, évidemment, l'absence d'ego et la cessation de la souffrance. L'ignorance est un état, si vous préférez, de non-conscience. Non-conscient, c'est-à-dire un état d'aveuglement, un état de séparation par rapport à la réalité. Et cette ignorance fondamentale entraîne les 12 facteurs de la production interdépendante qui maintiennent les êtres prisonniers dans le cycle des existences. Et de cette ignorance apparaissent ces formations mentales. De celle-ci naît la conscience qui engendre le nom et la forme, qui est la constitution d'un corps de chair composé de 6 éléments, terre, eau, feu, air, espace, conscience. Et c'est de la réunion de ces 6 éléments qu'il y a manifestation tangible d'un corps. Et de la forme naissent les 6 sens, vue, odorat, oui, goût, contact, conscience à travers les organes correspondants, c'est-à-dire de ces 6 sens, naît le contact. Du contact apparaît la sensation, de la perception de bon et de mauvais, et cette perception donne le jour au désir, puis à l'attachement. Vous voyez, il y a tout un enchaînement de causes et d'effets, et l'origine même, c'est l'ignorance. On ne comprend pas l'origine de tout cet enchaînement-là. Si on remonte à la racine de cet enchaînement-là, et qu'on tranche la racine de cet enchaînement, tout ce qui découle de ça est supprimé. Il n'y a plus de souffrance, et on n'a plus la nécessité de renaître dans un corps fait de chair et de sang, et on peut vivre dans les terres pures, sous forme d'apparence, etc. Enfin bref, chez le Bouddha Mithala, Devachè, Sukhavati, etc., où on n'est plus soumis justement à cet enchaînement-là, on est libéré du cycle des existences. Et du fait justement de ces sensations, de ces désirs, etc., qui s'élèvent comme conséquence de tout cet enchaînement depuis l'ignorance, nous allons expérimenter des états évidemment de joie, de bonheur auxquels nous allons nous attacher en voulant les reproduire. Et nous allons aussi expérimenter des états désagréables, des états de souffrance que nous allons nous efforcer de rejeter. Et cet attachement va donner naissance aux pulsions vers l'existence, c'est-à-dire aux actes. Et ces actes de nature bonne ou mauvaise engendrent le karma qui, lui-même, nous amènera à prendre renaissance et à subir à nouveau les expériences de la vieillesse et de la mort. Vous voyez, c'est un cycle infernal. On crée les mêmes causes, on a tout l'enchaînement qui vient derrière ces mêmes causes et les mêmes résultats. Il faut trancher ça. Et l'état de Bouddha, c'est ça. Si on veut le bonheur ultime, il faut trancher l'origine de tout cet enchaînement-là de causes et d'effets. Bon, évidemment, je vous invite à approfondir ça, parce que comme ça, d'emblée, si vous n'êtes pas habitué à la question, il n'y avait pas encore réfléchi, ça peut paraître un peu rébarbatif. Mais cependant, c'est très clair. Et à travers la méditation, on va comprendre cela. Il y a une connaissance qui va s'installer en nous-mêmes, parce que notre esprit ça sera dégagé de pas mal de choses, et on va comprendre le mécanisme de tout cela. Donc tout ça, c'est complètement interdépendant, finalement. Ça fait comme une espèce de chaîne, comme les maillons d'une chaîne qui se succèdent et qui peuvent s'établir les uns sans les autres. Dès l'instant où il y en a un qui apparaît, c'est l'autre qui apparaît. Il y en a un qui est produit, c'est l'autre, la suite qui se produit. Et s'il y a un attachement sur cette suite qui se produit, c'est encore une autre suite, conséquence de ça, qui se produit, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Si on rompt justement ce mécanisme, cette chaîne incessante, là, tout le reste s'arrête. C'est donc à cause de cette ignorance que nous sommes nous-mêmes prisonniers du cycle des existences, c'est-à-dire de ce qu'on appelle le samsara, la roue du devenir, la roue de la souffrance. Et il est dit que l'ignorance est comme celui qui sème la graine. Le karma est comme le champ qui reçoit la graine. La conscience est comme la graine elle-même. Le désir intense est comme l'humus qui permet à la graine de se développer. Le nom et la forme sont comme les pousses qui apparaissent, et les autres éléments de cette production interdépendante sont comme les branches et les feuilles, jusqu'à l'obtention du fruit qui est semblable à la graine elle-même. Ah oui, c'est comme dans la nature, je veux dire. Si vous plantez, vous semez dans la terre, fertile, etc., qui est arrosé avec de l'eau, etc., qui a toutes les conditions, si c'est une graine de pommier, ben ça va produire un pommier, qui lui-même va grandir, cet arbuste va devenir un pommier avec ses feuilles, ses fleurs, et les fruits que nous allons récolter, ce sont les pommes. Il y a un enchaînement de causes et d'effets, hein, toute une chaîne qui est produite. Dès l'instant où la racine est produite elle-même, en l'occurrence l'ignorance, ben il y a tout qui arrive derrière. Si on coupe la racine de l'ignorance, et couper la racine de l'ignorance, ben c'est aussi écouter les enseignements. Réfléchir aux enseignements en profondeur, comme il a été dit, hein, et mettre en pratique ces enseignements pour pouvoir trancher la racine de l'ignorance. Donc on a un travail à faire, on a une responsabilité. Et personne d'autre ne pourra le faire à notre. Il n'y a que nous qui avons créé les causes de souffrance, les causes du samsara, il n'y a que nous qui pouvons trancher ces causes. Même un Bouddha ne peut pas le faire pour nous. Donc là, finalement, ça nous ramène à quoi, quelque part? Dans ce monde-ci, on a tendance à infantiliser les êtres, mais le Bouddha, lui, il ne nous infantilise pas. Si tu veux changer, bah, retrousse tes manches et fais ce qu'il faut. Donc, le Bouddha, par son enseignement, nous rend responsables et adultes. C'est-à-dire qu'on va arrêter nous-mêmes de nous comporter comme un enfant, de se plaindre de tout, n'importe quoi, comme un enfant qui veut saisir tous les objets qui l'intéressent, qui veut rejeter ce qu'il ne veut pas, etc. On va arrêter de se comporter comme ça. Le Bouddha nous dit, ben voilà, si tu veux que ça change, ben, retrousse tes manches et fais ce qu'il faut. Personne ne peut le faire à ta place. Donc là, on n'est plus infantilisé. On nous met face à nos responsabilités. Donc, le dharma du Bouddha, l'enseignement du Bouddha, nous rend adultes. Ça, c'est une bonne nouvelle, quelque part. Adultes et responsables. Responsables de nous-mêmes, dans un premier temps. Lorsqu'il y a croyance en la réalité de la naissance, eh bien, il y a aussi croyance en la réalité de la mort. Oui. Puisque nous sommes attachés à la condition de jouissance qui naît de l'obtention d'un corps physique du fait de vivre, au moment de la mort, nous subissons la disparition des expériences liées au sens avec la disparition du corps physique. Et du fait de notre croyance en la réalité de la jouissance expérimentée à travers le corps, nous sommes donc amenés à subir différents états de souffrance, de misère mentale, du fait que nous ne sommes plus en mesure d'expérimenter les mêmes qualités auxquelles nous étions identifiés. S'il y a saisie sur cette expérience de détresse mentale, cela donne naissance à différents états émotionnels par lesquels l'esprit est totalement dominé. Ça revient à dire que par la réalisation de la vacuité de tous les phénomènes, intérieurs comme extérieurs, l'ignorance est stoppée, instantanément. Et de fait, la naissance n'apparaît pas, de même que le vieillissement et tout ce qui découle de ça est la mort. En fait, on prend pour réel ce qui n'est pas réel. C'est ça le problème de notre condition en tant qu'être humain. C'est comme un rêve. La nature de ce que l'on vit à l'heure actuelle a la même qualité qu'un rêve. C'est une projection d'esprit qui n'a aucune réalité. Quand vous rêvez la nuit, par exemple, c'est un rêve, vous êtes dans une ville, vous baladez, etc. Et vous vivez toutes sortes d'expériences. Si vous faites une saisie sur ce que vous vivez dans le rêve, ben ça va devenir compliqué. Vous allez souffrir s'il se passe des choses désagréables. Si vous ne voyez pas que tout ça, ce n'est qu'un rêve, vous prenez ça pour réel, ça va être compliqué. Alors vous allez vouloir connaître l'origine de la ville dans laquelle vous vous promenez, quelle est son histoire, quand est-ce qu'elle a été fondée, par qui, comment, quelle est son histoire à travers les siècles, peut-être les millénaires. Et c'est ce que l'on fait, nous, dans notre rêve actuel. On veut connaître l'origine des choses, mais on est empêtré comme dans la glu, et en fait, l'histoire de tout ce qui nous entoure, c'est nous-mêmes qui la créons, comme dans un rêve. Et cette vie, au moment de la mort, eh ben, le rêve s'arrête, celui-ci. Et si on n'a pas travaillé sur la vacuité, sur cette compréhension que tout ça est une projection, c'est un rêve, eh bien, on va entrer dans un autre rêve au moment de la mort, que l'on va saisir de la même manière, qu'on va prendre pour réel, et ainsi de suite, et l'histoire a recommencé sans cesse et sans cesse et sans cesse. Et ça, on est tellement identifié à la matérialité, à la réalité de ce que l'on voit, qu'on est englué là-dedans et on n'arrive pas à en sortir. Un être éveillé, c'est quelqu'un qui a réalisé la vacuité de tout ça. Et c'est pour ça qu'il est capable de faire ce qu'on appelle des miracles. Mais pour lui, il n'y a pas de miracle. Mais c'est naturel. Quand on voit que tout est un rêve et aucune réalité, on peut voler dans les airs, traverser les murs, changer les montagnes de place. C'est ce que font les grands Mahasiddhas. Ils agissent sur l'esprit et comme ils voient que tout est un rêve, tout est irréel, bah, ils peuvent s'amuser avec toute cette réalité-là, cette irréalité-là. Alors, c'est pas facile à comprendre. Intellectuellement, on peut l'aborder, mais après, il faut l'expérimenter intérieurement. Et ça, personne d'autre que vous peut le faire. Et la véritable liberté, on l'acquiert de cette manière. Est-ce que vous avez des questions? Mais même si vous ne comprenez pas, évidemment, d'emblée tout ce que je dis là, et c'est bien de l'entendre, parce que ça ouvre la porte à d'autres possibles. À se dire, ah oui, il y a peut-être en effet quelque chose d'autre que je n'ai pas encore acquis, que je n'ai pas compris, que je n'ai pas intégré. Et là, ça va nous amener à chercher, bien entendu, à approfondir. Et ça va nous encourager justement à l'écoute des enseignements, à la réflexion et puis à la mise en pratique. Pour l'instant, notre vision des choses est très, très, très limitée. Alors que celle d'un Bouddha, la vision d'un Bouddha n'a aucune limite. Oui.
Oui, alors j'ai une question parce que, à vous entendre, je Je me dis qu'on est très chanceux finalement parce qu'on a tout entre les mains. C'est vrai, hein, c'est ce que j'entends quand vous parlez. Mmh. Et qu'il faut s'en saisir, il faut qu'on. Enfin, voilà, c'est ce que j'entends, c'est ce que je comprends. C'est la mise en pratique qui est plus compliquée parce qu'on a tout entre les mains, c'est ce que j'entends. Mmh. Et je comprends aussi que finalement, cette chance-là. Si on est dans un état humain actuel, c'est une chance aussi, parce qu'on a cet état-là qui nous permet justement de dépasser les choses et puis d'aller dans un état d'éveil supérieur. Donc moi, j'ai l'impression qu'on est très chanceux.
D'une certaine manière, oui. D'une certaine manière, oui, parce que il est bien dit qu'une naissance humaine, dans ce monde-ci particulièrement, parce qu'il y a d'autres mondes humains, d'autres sphères où les Bouddhas n'apparaissent pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enseignement. Les gens ont une vie différente de nous, ils ne vieillissent pas, mais quand le karma positif est épuisé, qui leur a permis de renaître dans ce monde-là, est épuisé, donc tout ce karma-là, les êtres chutent dans les mondes inférieurs. Nous, on pourrait dire une certaine chance, même si ce monde était certes imparfait, il y a beaucoup de souffrance, c'est de rencontrer une alternance de bonheur et de souffrance. S'il n'y avait que de la souffrance, on ne pourrait pas en sortir. S'il n'y avait que du bonheur, comme dans le monde des dieux, on ne pourrait pas en sortir non plus. Mais que du bonheur qui est transitoire. C'est même les dieux qui vivent bien plus longtemps que nous, mais il y a une fin à leur histoire. Donc nous, c'est une alternance au quotidien de moments de plaisir, de petits bonheurs et de moments de souffrance, des souffrances plus ou moins grandes, etc., dans notre corps, dans notre esprit. Et c'est en nous appuyant sur ces deux pôles-là qu'on peut avancer. Donc on a cette faculté-là, et c'est cette rencontre justement avec les expériences de la vie, quelles qu'elles soient, qui va nous permettre de pouvoir évoluer. Et ça, c'est vraiment important, et en effet, oui, comme vous dites, quelque part, on a quand même accompli un certain mérite dans les vies passées, parce qu'on a pu rencontrer les Bouddhas. On a pu renaître dans un pays, dans un monde où les Bouddhas apparaissent, où l'enseignement est donné, l'enseignement pur est vivant, il est encore vivant même maintenant, et on peut le mettre en pratique, on peut l'expérimenter soi-même. Mais il ne faut pas rater cette opportunité. Et je dis encore, il faut. Chacun fait ce qu'il veut, ce n'est pas imposé. Il est nécessaire de mettre en application, si nous souhaitons, nous libérer de ce conditionnement, de cette hallucination dans laquelle nous sommes. C'est une hallucination. Et là, ce qui va déboucher évidemment de toute notre pratique, c'est la sagesse, c'est-à-dire qu'on va comprendre comment fonctionnent les choses. Alors évidemment, je ne vais pas rentrer plus dans les détails au niveau de la sagesse, parce qu'après, il y a différents points de vue en fonction des écoles, etc. Ce n'est pas le moment pour ça, c'est trop pointu actuellement. Mais déjà, le fait de dire tout ce que je dis là, ça vous ouvre d'autres perspectives. Et tout ça, c'est pas une fatalité, la condition dans laquelle nous sommes à l'heure actuelle, c'est pas une fatalité. Si c'était quelque chose dont on ne pourrait pas sortir, on serait complètement coincé pour l'éternité, là, ça serait flippant. Mais le Bouddha dit non. Il y a la souffrance, mais il y a l'origine de la souffrance. Mais il y a aussi l'extinction de la souffrance. Et il y a un chemin à parcourir pour parvenir à l'extinction de la souffrance. Donc c'est possible. Mais évidemment, il est nécessaire de se retrousser les manches, de le vouloir, d'avoir conscience de tout ça, et on va l'avoir la conscience à travers l'écoute des enseignements, la réflexion et la mise en pratique. Et à ce moment-là, comme on a confiance dans l'enseignement du Bouddha et on voit que ça fonctionne, parce que je peux vous dire, si ça ne fonctionnait pas, il y a longtemps que je ferais autre chose. Hein. Si je suis encore là à pratiquer moi-même et enseigner, c'est parce que je vois que ça fonctionne. C'est long. Mais c'est rien, une vie. C'est que dalle, une vie, par rapport à l'éternité. C'est rien. C'est un claquement de doigts. Et nous, ça nous paraît long. Mais bon, comme on a confiance, on a la foi, on a la dévotion, on continue, on œuvre. C'est comme le lièvre et la tortue. Hein. Le lièvre, il court dans tous les sens, et puis il se la coule douce, puis la tortue, elle arrive avant lui. Parce qu'elle, elle a éprouvé chaque pas. Doucement, avec persévérance, elle a continué son chemin et elle est arrivée au but avant le lièvre. de La Fontaine. Donc c'est au quotidien, c'est tous les jours, il faut que ça imprègne, c'est nécessaire, ça imprègne notre vie au quotidien. Et après, ça devient plus difficile, parce qu'en fait, ce qui est difficile dans la pratique, c'est pas la pratique elle-même, c'est nos résistances. C'est ce qui rend la pratique difficile. On résiste à tout. C'est toujours moi qui ai raison, c'est moi ceci, c'est moi le cela, et puis si c'est pas en accord avec ce que je veux, on résiste. Hein ? Comme disait Frontière, elle résiste. La pauvre, elle n'a pas pu résister. Mais voilà. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup d'abandon, de détente, de lâcher prise, d'abandon. Parce que si on n'abandonne pas nos résistances, les choses n'évolueront pas. On sera toujours en opposition contre, et principalement contre nous-mêmes. Vous voyez ? Et ça c'est nécessaire de toucher dans la pratique. C'est ce qu'on a touché dans la pratique. Souvent, les mêmes donnent l'image d'une botte de foin qui est liée, un lien comme ça, la botte, voilà, elle est là, et on coupe le lien qui maintient cette botte. Et qu'est-ce qui se passe ? Tous les brins d'herbe vont tomber au sol et vont prendre la place qui leur revient. Alors, la méditation, c'est ça. On va couper le lien de nos saisies réalistes. Et les choses, naturellement, vont prendre leur place. Il y a un abandon qui va s'opérer, mais ce qui va être abandonné, c'est ce qui est mauvais. Parce que le bon, on l'a en nous, c'est la nature de Bouddha. Donc c'est par la détente, la souplesse, la pratique de la méditation, le lâcher prise qu'on va arriver à abandonner notre mauvais fonctionnement producteur de souffrance. Donc la pratique de la méditation, c'est ça, c'est un grand lâcher prise. Sur nos idées, nos concepts, nos habits de ceci, de cela, pas ceci, pas cela, il est bon, il est mauvais, il est pas bien, ça n'arrête pas dans notre esprit, c'est vraiment, c'est un chaos permanent, quoi. C'est sans cesse, arrête ton cirque, c'est ce qu'il faut vous dire, la méditation, moi c'est ce que je me dis, il y a des fois j'ai beaucoup plus de pensées qu'à l'autre moment, je me dis, qu'est-ce qui se passe, bon, il y a un problème au niveau des énergies, parce que c'est lié aussi, le mental avec les énergies du corps. Donc il y a des choses à faire dans la méditation. Il faut voir la manière dont on vit, comment on s'alimente, tout ce qu'on fait de notre vie quotidienne, parce que tout est interdépendant. Ça, c'est pas dissocié, si vous voulez. La méditation, c'est parfait, travailler sur l'esprit, c'est parfait, mais si on ne bosse pas aussi sur la manière dont on vit au quotidien, les énergies du corps, elles ont une incidence sur l'esprit, l'esprit a une incidence sur les énergies du corps. Si on a une vie dévoyée, qu'on picole, qu'on se drogue, etc., on n'a aucune possibilité de sortir de cet état de souffrance. On engendre toujours les causes d'autres souffrances. Parce qu'on bouche les canaux subtils des énergies du corps, on verrouille certains aspects de l'esprit, etc. On développe des tendances démoniaques en nous-mêmes. Donc, on a une conduite, et ça, on en revient à la deuxième paramita, la vigilance éthique. Avoir une conduite qui ne génère pas de souffrance, ni en nous-mêmes, ni chez les autres. C'est à savoir vivre au quotidien, à savoir bien vivre au quotidien. La pratique spirituelle, c'est aussi ça. Il y a le coussin, d'accord, mais après le coussin, il y a la vaisselle à faire. Il y a les courses pour manger, et pas manger n'importe quoi. Il faut s'occuper des enfants, il faut s'occuper de notre corps quand il est malade. Il faut le soigner. Il est nécessaire de le couvrir quand il fait froid, de reposer ce corps quand il est fatigué. Mais on veut tout le temps manipuler les choses, refuser de voir ce qui est dans l'instant, ce qui est nécessaire de faire. Donc c'est ça qui va pas. On est des manipulateurs nés. Et la pratique de la méditation, le lâcher prise, c'est ça, arrêter de manipuler. De manipuler la réalité. Et on se rend compte que quand on arrive à ça, les choses sont d'une simplicité déconcertante. Mais la vie est d'une simplicité, vous ne pouvez même pas imaginer. Et c'est tellement simple que justement on n'y arrive pas. Pour nous, on n'aime que les choses compliquées. On a l'impression de ne pas vivre si ce n'est pas compliqué. Mais alors, la véritable vie, c'est une simplicité des fois importantes. Alors après, on est bien dans ses baskets. Il n'y a plus rien qui peut vraiment nous provoquer des choses perturbatrices. Évidemment, notre cœur sera toujours quand même touché quand on voit la souffrance des êtres, quand on voit ce qui se passe dans le monde, quand on voit... Le cœur parle. C'est notre bonté intérieure qui parle. Mais nous-mêmes, on ne sera pas... Comment je pourrais dire... Notre vie ne sera pas déterminée par ça, notre cheminement. On voit la souffrance des autres, on compatit, mais cette souffrance ne nous appartient pas. Elle n'est pas à nous. On n'est pas identifié à cette souffrance. Donc les choses deviennent de plus en plus simples, et c'est ce qui nous permet de pouvoir aider les êtres d'une bonne manière. Parce que c'est toujours notre moi-je qui veut faire la loi. Alors forcément, comme le moi-je, c'est toujours l'expression de l'ego, c'est toujours de travers. Et cet abandon, justement, ben, c'est pas qu'on va devenir rien. Quelque part, on devient rien, et du fait qu'on devient rien, on devient tout. Mais c'est pas qu'on va cesser d'exister, de cesser d'inspirer, de vivre, d'aimer. C'est simplement qu'on abandonne tout ce qui est superflu en nous-mêmes. Tout ce qui nous empêche de toucher la réalité de notre esprit, la réalité des choses, et de comprendre justement le fonctionnement des choses. Et c'est comme ça qu'on éradique l'ignorance. L'ignorance se transforme en connaissance. L'ignorance en tibétain, ça dit marikpa. Ma, c'est la négation. Marikpa, et la connaissance, c'est ripa. On a supprimé le ma. De l'ignorance, il est venu connaissance. Je ne sais pas si je suis clair. Je bafouille, je parle, je tchatche. Mais dites-moi, allez-y, dites-moi, il y a le micro là.
Non, je crois que vous m'avez apporté une réponse. Je me posais la question de savoir si sur un des chemins de la non-dualité, c'était justement d'observer les perceptions et de dire, ben, par exemple, à table, à midi, c'était bon, mais si je dis que c'est bon, ça sous-entend que ça peut être mauvais, alors que en fait, c'était juste comme ça devait être à cet instant-là. En fait, est-ce que ça peut être un chemin? C'est-à-dire que quand je me promène dans la nature avec des amis ou tout ça, on dit « Oh, regarde comme c'est beau !» Et parfois, je fais des gymnastiques d'esprit à l'intérieur de là-dedans, et je dis « Oui, c'est beau, mais si c'est beau, ça veut dire que ça peut être mal. » Donc en fait, c'est juste comme ça doit être là, maintenant.
Oui, mais ça ne nous empêche pas d'apprécier quand même un beau paysage, des bons moments. Mais on n'est pas attaché au bon moment et on n'est pas dans l'aversion des mauvais moments. On apprécie les choses telles qu'elles sont. Ben, on est des êtres sensibles, on n'est pas un caillou, lui, il ne dira jamais « j'aime ce beau paysage ». Voilà. Hein? Un caillou, il n'a pas d'état d'âme. Hein? Nous, on n'est pas des cailloux, nous sommes des êtres sensibles, des êtres vivants. Donc nous sommes tout à fait en capacité d'apprécier les bonnes choses, mais le problème vient quand le moi intervient et veut saisir ce moment de bonheur. C'est là où ça se gâte. On veut posséder ce moment de bonheur. On le fixe, on se l'approprie. Et on veut qu'il dure, qu'il continue. Mais il ne peut pas durer et continuer parce que tout est impermanent dans notre monde. C'est accepter le changement. La solution, c'est ça, accepter que les choses changent. Que les choses soient impermanentes et ne pas être dépendant de ça. Bah oui, bah il a plu. Nous, en Auvergne, ça fait un mois qu'il pleut. On a râlé pendant 3 mois qu'on avait la sécheresse. On a même des arbres qui sont morts chez nous. Alors, entre l'année dernière et cette année, alors tout le monde se payait la sécheresse. Oh, vive-moi qu'il pleut, vive-moi qu'il pleut. Puis maintenant, oh, il y en a marre de la pluie, ça fait un mois. Alors bientôt, ça va être pleine neige et plus de froid. Parce que quand ça arrive chez nous, il fait froid là-bas. Hein. Ah, mais il fait trop froid, vive-moi cet été. Puis ça recommence. On saisit les choses au lieu de les vivre pleinement, dans la détente, dans l'abandon. C'est toujours ce foutu moi qui veut y mettre son grain de sel partout. Mais c'est ça qui parasite tout. Donc les moments de bonheur, bon, on les vit pleinement. Une bonne bouffe, c'est sympa, mais c'est tout, on ne fait pas de saisie. Une bonne rencontre avec quelqu'un, les gens s'entendent bien, on parle, on cherche, puis à un moment donné, on se sépare, peut-être on se reverra plus, mais on a vécu ce moment-là pleinement, quand on n'a pas l'attachement à vouloir reproduire un coup. Dire de moi ton numéro de téléphone, je vais te rappeler, puis se revenir la bonne femme ou le bonhomme en disant je veux te revoir parce qu'on a passé un bon moment, je dois le reproduire, alors là, c'est là où ça va plus. Et dans nos rapports amoureux, c'est exactement la même chose. C'est toujours ce qui se reproduit et c'est ce qui met le bazar. Vous comprenez ce que je dis là ? Aïe. C'est le début de la connaissance. Oui ?
J'espère quand même qu'on se reverra.
Il faut que j'arrive à faire la différence entre vous deux parce que vous ressemblez tellement que je risque de prendre l'une pour l'autre. Ben, on se reverra si vous revenez. Hein. Mais c'est pas moi qui va frapper chez vous. Hein. Ouais, non, mais je suis appelé à revenir. On a déjà fait le programme de l'année prochaine. Déjà, on a les dates. Hein, je ne sais pas en mémoire, mais vous pouvez les avoir par Vincent ou Wynne. Ils sont. C'est eux qui ont établi tout ça. Donc on fera la même chose que ce week-end. Il y aura possibilité de prendre le repas ensemble, de se retrouver, etc. Peut-être avec de nouvelles personnes, de venir ou le samedi ou le dimanche, ou les deux jours, etc. Demain, on va pratiquer, on va parler de méditation. C'est aussi pour vous, c'était le souhait beaucoup du vénérable, que l'on pratique. Vraiment, il a tout à fait raison. Ben, je parle beaucoup aujourd'hui, mais parce que je vous éclaire sur tout ça, il faut bien écouter les enseignements pour comprendre ce que ça veut dire. Et puis après, ben, il faut expérimenter, il faut se poser les fesses sur le coussin. Puis voilà, ben, il faut regarder ce qui se passe. Ah, ça, c'est plus dur.
Oui, alors moi, j'ai un petit peu du mal. Effectivement, quand je vis du bonheur d'avoir rencontré quelqu'un et puis de ne pas demander son numéro de téléphone. Pour ne pas reproduire, sinon vous avez dit c'est le bazar. Moi j'ai un petit peu du mal avec ça parce qu'en fait, dans la rencontre nouvelle de cette personne, une autre fois, enfin, je veux dire, c'est tout un cheminement qui peut se. Il y a des possibles, il y a un cheminement, il y a. Oui. Comme par exemple, bon, là, on rencontre. Enfin, moi je rencontre des personnes. Que je revois, donc dans le cadre de la pagode, eh bien, je veux dire, j'ai l'impression de cheminer un peu par. Enfin, elle m'aide aussi à cheminer. Voilà, oui. Elle m'aide à cheminer du fait qu'on échange. Oui. Et, ben, des fois, dans la prise d'un téléphone de quelqu'un, c'est parce qu'on sent qu'on peut s'apporter réciproquement sur un cheminement personnel. Enfin, donc là, moi, je suis un peu. Pas. Ce bazar-là ne me plaît pas bien.
Mais on se reverra si c'est nécessaire et si les choses se font. Si on veut forcer les choses, c'est là où ça coince. Si on doit se revoir, on se reverra. S'il y a un karma commun de nouvelles rencontres et de cheminements possibles, ça se fera naturellement. Mais si nous, on veut manipuler les choses comme on fait en temps ordinaire, je veux ton numéro, je vais t'appeler, puis alors après on l'appelle une fois par semaine, après c'est tous les jours, c'est trois fois par jour, et jusqu'au moment où la personne va nous envoyer balader, et voilà le résultat des courses. Hein? Non, si ça doit se faire, ça se fait naturellement. Naturellement. Il n'y a pas à forcer. Et des fois ça ne se fait pas. Ben, si ça ne se fait pas, c'est que ça ne doit pas se faire. C'est une simplicité déconcertante, mais c'est nos désirs qui mettent le bazar tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je veux, je veux, je veux. C'est toujours moi qui veux manipuler les choses, mais il faut faire confiance parce que au niveau de l'esprit, tout est parfaitement pur. Pour lui, par exemple, les monothéistes, ceux qui croient en Dieu, etc., ils s'en remettent complètement en Dieu parce qu'ils savent très bien que tout sera toujours parfait. Mais pour nous, c'est pareil d'une certaine manière. Quand on parle de nature de l'esprit, si on s'en remet au soi, quel que soit le nom qu'on lui donne, le soi, c'est souvent les gens en Inde, ou les bouddhistes indiens, ou les hindouistes qui parlent du soi, mais c'est la même chose, on retrouve la même notion de cette espèce de truc qu'on ne peut pas expliquer. Qui est la vie, qui est Dieu, qui est Jésus. Voilà. Si on s'en remet à cette dynamique qui est parfaite, sans défaut, tout se fait tout seul. tout se fait tout seul. Si on doit se revoir, on se reverra. C'est qu'on a un chemin à faire ensemble. Si ça ne doit pas se faire, ça ne se voit pas. Ça sera peut-être avec quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on paragite toujours tout ce qui est naturel, ce qui est parfaitement pur, qu'il a toujours été de tout temps, qui est non né, non créé, qui n'a pas de fin, on paragite toujours ça, et c'est pour ça que nous souffrons. L'être humain, je vais peut-être être un peu dur en disant ça, mais il fout la merde partout. Partout où l'être humain apparaît, c'est la merde. Non mais c'est vrai. C'est terrible. Je parle de l'être humain ignorant, bien entendu. Parce qu'il y a l'être humain connaissant. Mais un être humain connaissant, il ne manipulera pas les choses. C'est-à-dire qu'un Bouddha, lui, il est en prise directe avec la réalité. La force de ses souhaits se réalise tout le temps. Et il n'a rien à manipuler du tout, parce qu'il est en accord complet avec cette dimension inexplicable. On peut le toucher, ça, dans la pratique, et ça demande des années de pratique, bien sûr. On comprend, et ça nous incite à aller plus loin, à chaque fois, à lâcher prise, à chaque fois qu'on se voit dans des saisies, dans des fixations, dans des brassages, dans des ruminations, on comprend le mécanisme, à un moment donné, on lâche ça, on se dit, arrête ton cirque, arrête, ça suffit, tu crées sans arrêt des problèmes, sans arrêt, à vouloir ceci, pas vouloir cela, à te venger de ceci, à vouloir aimer cela. Je t'aime à la folie, je veux que tu m'aimes comme moi je t'aime, mais arrête comme ça, il faut arrêter ce cinéma. Parce que c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche dans la réalité. On est toujours dans je veux. Le je, c'est l'ego, comme j'ai dit ce matin, le veux, c'est le désir. Donc il faut abandonner l'ego, la saisie égocentrique de manipuler je veux, moi. Je veux pour moi, rien que pour moi, et je ne veux pas partager avec les autres mon petit bonheur. C'est ça qui parasite tout. Dans la méditation, on va lâcher ce cinéma, si on pratique sérieusement, bien entendu. Vous voyez ? Là. Bon sang. On va bien finir par comprendre, quoi. Dites-vous bien, c'est possible. C'est possible. Mais il y a des choses à faire. Les choses à faire, c'est l'octuple sentier qu'a enseigné le Bouddha. C'est-à-dire le chemin qui mène à l'extinction de la souffrance. On a un travail à faire. Et personne ne peut faire à notre place. Personne. Personne. Donc c'est ça qui est difficile. Mais je le vois bien moi-même. Là, j'enseigne, il y a du monde. Mais demain, il y aura la moitié de ce que vous êtes là. Donc il faut mettre en pratique. Il y aura toujours une excuse, je ne peux pas, mais je suis fatigué, je travaille demain. Voilà. En fait, si on regarde bien, c'est du cinéma tout ça. Parce qu'on ne veut pas se regarder en face. On a les jetons de voir qui on est, de voir que notre visage n'est pas toujours bien clair, hein, qu'il y a la face cachée de la lune, comme disait Pink Floyd, hein, The Side of the Moon. Excellent, un peu plus. Mais oui. On veut que du bon, que du parfait, que du joli, que de l'esthétique. Et on veut surtout pas voir les côtés un peu sombres de nous-mêmes. Et forcément, bah, on recule toujours la pratique. Oh, bah oui, on fait toujours une excuse pour ne pas pratiquer. Il faut du courage. Hein. Vous savez, pour parcourir une voie spirituelle, il faut du courage. Je vous assure. Et ça, je me rends compte moi-même. Il faut du courage. Il faut être courageux, même téméraire. Donc, tout ce qui est dit là, finalement, ça doit nous amener à une réflexion en profondeur. Et pas se dire, oh, ben, j'ai écouté ça, c'est bien, c'est sympa ce qu'il a dit de la parole, j'en reviendrai peut-être la prochaine fois, surtout maintenant, il y a de la bouffe. Et puis c'est de la bonne nourriture en plus, faite avec amour par nos amis vietnamiennes. Hein. Et donc c'est sympa, mais... Ouais, mais l'essentiel, c'est pas ça. essentiel, c'est de tirer profit de ce qui a été entendu, de réfléchir pour que ça intègre notre esprit, ça entre dans nous. Et c'est pour ça qu'il faut répéter, revenir sans cesse dessus, jusqu'à temps que notre esprit soit en adéquation avec ça, qu'il n'y ait plus de dualité entre les deux, que ça fasse partie de notre vie, tous les jours, comme la respiration. Est-ce qu'on se pose la question s'il faut respirer tous les jours? Ben non, on respire naturellement. Ben il faut que le dharma soit pareil. On ne se pose plus la question. On fait ce qu'il y a à faire, parce qu'on a compris la valeur. Vous voyez? Donc en effet, il faut être courageux, persévérant, et on en revient aussi par la méta. Il faut être généreux, il faut avoir une éthique de vie, il faut être patient, être persévérant. Et sans persévérance, ben, y a rien qui peut se faire. C'est toujours pareil, on en revient à la même chose. Toutes ces qualités, nous devons, si nous voulons nous libérer de la souffrance, nous devons les développer au quotidien. Et c'est dans le quotidien que ça se fait. Donc ça veut dire que la vie de tous les jours, elle n'est pas séparée de la pratique spirituelle. On peut voir nos comportements dans le quotidien. Nos comportements égoïstes, généreux, parce qu'on n'est pas fait quand même que d'égoïsme, mais il y a quand même des bons côtés en nous-mêmes, de générosité. Le français est très généreux. Et par contre, c'est un râleur fini, il veut tout le temps manipuler, transformer, jamais content, mais il est généreux, c'est déjà pas mal. Et il y a tout le reste derrière. Et la vie nous renvoie à notre image, les autres nous renvoient à notre image, au quotidien. On a besoin des autres. S'il n'y avait pas les autres, comment pourrions-nous être généreux? Comment pourrions-nous être patients? On a besoin des autres, et les autres, ils nous titillent. À travers les situations, à travers les conflits, à travers aussi les bonnes choses qu'ils peuvent nous apporter. Les autres sont un maître pour nous. Donc, le bouddhisme, c'est d'abord, je dirais, la vie quotidienne. La méditation va nous amener cette qualité de conscience. De ce que nous faisons, ce que nous pensons, de ce que nous exprimons à travers les paroles, la parole et l'action du corps. Et cette conscience-là, elle va être omniprésente tout le temps dans notre vie de tous les jours. C'est quelque chose qui va devenir naturel. Avant de parler et de dire une ânerie, on aura réfléchi dans notre esprit, puis on s'est dit non, ça ne vaut mieux pas que je le dise. On aura une lucidité qui va émerger, si vous voulez, à l'intérieur de nous, grâce à la méditation. On va être lucide sur ce qu'il y a à faire et à ne pas faire, à dire et ne pas dire, à mettre en application, et en effet, ce qu'il ne faut pas mettre en application. Parce qu'on aura une vision beaucoup plus large des conséquences de ce que peut impliquer notre attitude. Conséquences bonnes, favorables ou mauvaises. Il y a une espèce de lucidité qui va être acquise à travers la pratique de la méditation. Et ça concerne toute notre vie, tout l'ensemble de notre vie. Après, c'est quelque chose qui va devenir vraiment naturel. Quand on est dans la vie quotidienne, on est là, on veut faire quelque chose, et puis il y a toujours un contrôleur qui est derrière, qui dit « oui, mais tu devrais faire ci plutôt que ça, tu devrais... » Il y a toujours quelqu'un qui commande derrière. Mais celui-là, vraiment, il en a marre. Et c'est la spontanéité, on l'acquiert justement, plus on purifie notre karma, et ce qu'on va faire instinctivement, de manière spontanée, ce sera toujours juste. Mais on est tout le temps dans le doute, dans la peur, parce qu'il y a ce mec, ou cette espèce d'énergumène qui est derrière, qui est tout le temps en train de contrôler, à donner son avis sur tout, sur n'importe quoi, si bien qu'on n'est plus dans la spontanéité, dans la sagesse, on est tout le temps dans le doute, dans la peur. La méditation va nous amener à éliminer ça. Ça ne veut pas dire qu'on aura plus, conscience de ce qu'il faut faire, pas faire. Au contraire, notre conscience sera en prise directe. On n'aura plus ce Big Brother qui est là au-dessus de nous, qui nous empêche la vie tout le temps. Et c'est quelque chose qui va devenir spontané. C'est difficile à expliquer. On peut comprendre comme ça, mais si on ne le vit pas intérieurement, on ne peut pas vraiment comprendre. Et c'est la pratique qui va nous amener ça. Aïe, aïe, aïe.
Moi, je ferai une petite question par rapport à la parole juste. Est-ce que ça peut arriver, enfin, personnellement, ça m'est arrivé, de discuter avec quelqu'un et ma pensée est arrivée et quelque chose m'a dit, ben non, ça ne correspond pas à la personne que tu as à côté de toi. Et donc, j'ai pris mon souffle et je l'ai dit autrement. Est-ce que ça, c'est une partie d'ouverture par rapport à la parole juste, ou est-ce que c'est bon, ben, parce que voilà, je ne sais pas comment l'exprimer.
Non, là c'est vraiment bien parce que c'est un départ, c'est un début de conscience.
D'accord.
Ce n'est pas négligé, mais il arrivera un moment où il n'y aura plus ce contrôleur derrière.
D'accord.
La souche se fera spontanément parce qu'elle ne pourra pas être autrement. Ça, c'est un haut niveau de réalisation. Pour l'instant, il y a le contrôleur qui est quand même derrière. Heureusement, heureusement, ça nous évite des catastrophes. Mais c'est qu'un premier pas. Il faudra abandonner ce contrôleur-là, parce qu'il nous empêche justement de voir la réalité telle qu'elle est dans sa nature fondamentale. C'est un petit peu le normand qui est derrière nous. Ah bah peut-être bien, peut-être bien que non. Ah tu devrais peut-être le faire, mais c'est peut-être pas sûr que tu le fasses. On est tout le temps à cheval entre deux chaises. Mais c'est nécessaire quelque part, parce que c'est le début d'une prise de conscience qu'il y a un travail à faire. Mais on doit aller plus loin. On parlait d'absorption méditative ce matin. Hein. L'absorption méditative, il y a des degrés. Et il y a un moment où il n'y a plus besoin de ce contrôleur. On n'a plus besoin d'un gendarme derrière nous qui va juger, qui va nous mettre des PV ou pas. On devient nous-mêmes, spontanément, je dirais notre propre gendarme, mais c'est même encore au-delà de ça. Il n'y a pas de jugement quant à nous. C'est quelque chose qui est spontané, parce que ça ne peut pas être autrement. Et dans ces hauts niveaux de réalisation-là, déjà, quand on en arrive là, c'est ce qu'on appelle « rochik » en tibétain, ou la même saveur. C'est tout est de la même saveur, et c'est difficile à comprendre. Il faut vraiment le réaliser, le toucher, déjà dans un premier temps, pour comprendre ce que ça veut dire. Et heureusement qu'il y a quand même cette conscience de se dire, bah oui, ça fait aussi partie de la... du développement de la pratique de l'éthique. On a conscience qu'il y a certaines choses qu'il ne faut pas les faire, ou il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Ben ouais, j'avais envie de dire ça, mais ça allait être une grosse ânerie, et je ne dis pas. Heureusement qu'il y a ça. Parce qu'avant, il n'y avait même pas ça. Et les gens s'identifient à ce qui s'élève dans l'esprit. N'importe quoi. Alors là, évidemment, ça vous les porte à plein de catastrophes. Hein. Vous n'avez pas le micro, c'est pas enregistré autrement.
Peut-être que je vais expliquer un petit mieux. À vrai dire, ce qui se passe, c'est que je voulais donner un conseil à une personne et derrière moi, on m'a dit non, c'est pas ça qu'il faut faire. Je ne sais pas comment expliquer et à ce moment-là, je me suis dit peut-être que tu vas prendre ton expérience. Et après, de ton expérience, elle en fera ce qu'elle veut. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plutôt que de dire, je pense qu'il faut que tu fasses ça, ou je pense que, j'ai dit non, c'est pas ça du tout, parce que la personne qui était en face de moi, ça risquait de la choquer. Et j'ai pris un exemple de ma vie personnelle, qui pouvait ressembler au message que je voulais passer.
Et on peut évidemment faire part de notre propre expérience personnelle. Et moi, quand je vous enseigne là aussi, c'est parce que j'ai expérimenté ça. Donc, quelque part, il y a quand même une connaissance derrière de ma propre expérience. Mais je ne la prends pas vraiment comme définitive. Et je me dis, il y a encore des aspects beaucoup plus profonds de ça. Mais on peut être de bons conseils. Mais quelquefois, on est emporté par nos désirs de vouloir dire, de vouloir diriger, de vouloir conseiller, de vouloir sauver les êtres. D'un seul coup, je suis le sauveur des êtres. Et ça nous amène justement à faire beaucoup d'erreurs. Et la lucidité qui va nous amener à la méditation, c'est ça justement. Comme dit le proverbe, tourne ta langue cette fois dans ta bouche avant de dire une bêtise. Hein, mais c'est un petit peu ça quelque part. Mais ça, c'est une première phase, c'est une première étape. Après, ça deviendra beaucoup plus subtil et beaucoup plus direct. Mais dans un premier temps, c'est bien qu'on soit quand même sous contrôle nous-mêmes. Hein. Et ça, il y en a tellement de gens qui ne sont pas sous contrôle. Déjà, quand on arrive à cette qualité-là, c'est vraiment bien. Quoi. C'est le début, vraiment, d'une bonne pratique.
Alors, parfois, ce n'est pas une bêtise, mais la personne en face n'est peut-être pas en capacité d'entendre. Comme ce que vous disiez tout à l'heure, on est responsable de ses propres souffrances. Pour certaines personnes, l'entendre dire, ça peut être violent. Pourtant, la parole est juste. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On s'abstient, on tourne... Voilà. Cette fois, sa langue dans sa bouche,
on se tait. Et évidemment, les erreurs, on en fera. Mais les erreurs que l'on va faire, c'est la conséquence de notre ignorance. Parce qu'on n'a pas assez de lucidité dans l'esprit. On ne voit pas les choses telles qu'elles sont. On les interprète comme nous voulons. Peut-être qu'on aurait dit quelque chose de juste, mais qui n'était pas approprié à la personne. Et ça, la méditation va nous amener cette lucidité. De faire gaffe à ce qu'on dit. Moi, il y a des choses que je ne peux pas dire à certaines personnes, je le vois tout de suite. Mais c'est ce que je disais ce matin. Je peux dire quelque chose à une personne, puis la personne qui est à côté va dire, mais la main, vous m'avez dit la semaine dernière le contraire de ce que vous avez dit à la dame à côté ou au monsieur à côté. Mais oui, mais parce que ce que j'ai dit à la personne l'autre fois, ça correspondait à ce qu'elle avait besoin. Vous avez besoin d'autre chose. Voilà. Et ça, on acquiert cette capacité progressive, justement, de clarté de l'esprit, de lucidité de l'esprit grâce à la méditation. Il faut qu'en effet, parce qu'on est souvent fixé sur nous-mêmes quand on va dire quelque chose. Ça, on parlait de... Je sais plus, ce matin, on a parlé de l'accompagnement traduit, je crois. Mais si accompagner les autres, c'est voir la personne avant nous-mêmes. C'est la personne qui compte, c'est pas nous. La plupart du temps, on veut déballer toute notre histoire à nous. Hein, comme je dis, notre vomi névrotique, c'est le terme que j'emploie, parce qu'on ne voit que nous. On est fixé sur nous-mêmes, mais pas sur la personne en face. C'est pour ça que l'accompagnement, c'est toujours, que ce soit en fin de vie ou même dans la vie quotidienne, on doit être là pour l'autre et comprendre ce que la personne vit. Et si on commence à déballer notre marchandise et nos états émotionnels, ça n'est d'aucune utilité. Ça fait l'effet inverse. Vous voyez? Donc, c'est toujours être centré sur soi-même. C'est ça qui fait le problème. On est tout le temps fixé sur nous-mêmes. Mes désirs, mes points de vue, etc. On ne voit pas l'autre comme il est, la personne, ce qu'elle a véritablement besoin, ce qui lui est nécessaire et utile. Donc, on va déballer ce qui est important pour nous, mais qui n'est pas forcément pour la personne. Mais ça, c'est une technique qu'on apprend. Hein. Diriger les gens dans la pratique, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Bon, on peut avoir les qualités ou pas, mais il y a une mise en application que l'on doit mettre et on va faire des erreurs. Ça, c'est sûr. Mais c'est arrivé aussi de dire des âneries, quelque chose à quelqu'un. J'ai regardé après, je dis, j'aurais jamais dû dire ça. Mais bon, on apprend comme ça aussi. Voilà. Mais toujours penser que quand on veut aider quelqu'un, il ne faut pas qu'on soit fixé sur nous. Si on est fixé sur notre moi-je, sur moi, on n'aidera pas la personne. Vous voyez? On doit être présent à l'autre. C'est ça, l'accompagnement de fin de vie, c'est ça, c'est la présence, la disponibilité, l'écoute. Mais en règle générale, on s'écoute nous-mêmes. On n'écoute pas l'autre. Et on peut vérifier ça vraiment dans notre vie quotidienne, comment fonctionnent les gens. Je me rappelle, il y a longtemps, j'étais retourné dans le quartier de mon enfance, à Vincennes, après Paris. Et sur le trottoir en marchant, je rencontre un copain d'école, que je n'avais pas vu depuis 25 ans, peut-être. On commence à. Comment tu vas, etc. Enfin, c'était assez superficiel. Et puis ce camarade m'a dit, écoute, viens, je t'invite à boire un coup au bistrot. On allait ensemble avant, quand on était jeunes, on avait fait les 400 coups. Et ce copain, je le retrouvais, mais pas la même personne, finalement. On est resté presque une heure ensemble, il m'a parlé que de lui, pendant une heure. Moi, ça a été moi ceci, moi c'est ça, moi c'est mes expériences. On s'est quitté au bout d'une heure, il m'a même pas demandé comment j'allais, où j'habitais, ce que je faisais, ce que j'étais devenu, si ma santé était bonne, rien. C'était que moi, moi, moi. Et on s'est quitté au bout d'une heure, comme ça. Sur ce point, c'est hallucinant, je me suis dit, c'est pas possible. Et là, c'était un exemple pour moi. Je veux dire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Il faut être conscient, justement, quand ça s'élève en nous et qu'on est dans cette dynamique-là. Parce que ça, c'est pas utile. C'est un échange. La rencontre entre deux êtres, on échange. On se soucie de l'autre, on est présent à l'autre. Mais lui, il n'était présent qu'à lui-même. Et encore. Et ça m'avait impressionné sur le coup. Je me suis dit, bon sang. Et j'espère que je ne suis pas devenu comme ça. Et on avait le même âge. On était à l'école communale ensemble, on avait fait 400 cours ensemble, on avait fait même le Tour de France en mobylette ensemble, pour vous dire. On avait 14 ans à l'époque. Voilà. Mais la vie quotidienne nous montre justement à travers tous ces exemples, ça nous renvoie à nous-mêmes à chaque fois, en disant bah, oui, bah, là ça va pas. Fonctionner comme ça, c'est pas bon. Et c'est bien d'avoir conscience de ça aussi. Donc les autres nous apportent aussi quelque chose, nous renvoient notre image quelque part à travers ce qu'ils sont, ou à travers ce qu'ils avaient ici, et même d'eux. Mais c'est un enseignement. De toute façon, la vie quotidienne est un enseignement permanent. Il faut se dire ça, c'est un enseignement permanent. Et ça, c'est la vraie pratique spirituelle. Il y a l'aspect quotidien, l'aspect de prière, il y a l'aspect spirituel, ésotérique, etc. Il y a différents degrés dans la pratique spirituelle. Mais on ne peut pas atteindre l'ultime si on n'a pas intégré le relatif. Le relatif, c'est le quotidien. Savoir se relationner à nous-mêmes, se relationner aux autres, à la vie quotidienne de la meilleure façon, si on n'a pas ça, on ne pourra pas accomplir l'ultime. Et tous les paramitas qui sont enseignés nous ramènent d'abord à ce quotidien, la générosité, avoir une bonne conduite, montrer le bon exemple aux autres, etc. Avoir de la patience, la persévérance dans l'accomplissement du bien, c'est notre vie quotidienne. Et ça, il ne s'agit pas de faire de l'angélisme, hein, parce que je vois beaucoup de gens qui sont là, à la vie spirituelle, c'est comme dans les mouvements du collège, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, c'est formidable, il n'y a pas de problème, j'ai une énergie qui arrive du ciel, qui me pénètre là, qui me ressort de ses yeux, c'est formidable, oh, tout est merveilleux, mais c'est pas ça la vie spirituelle. Ça c'est du cinéma, ça c'est du rêve, c'est de la tromperie, de la supercherie. Il y a une réalité au quotidien. Ben oui, il y a des choses dures. Ben, quand je vois ce qui se passe dans tous ces pays en guerre, en Ukraine, dans tous ces pays-là, en Palestine, etc., ben, ce n'est pas une promenade de tranquillité. C'est pas... Même si tout ça, c'est illusoire au bout du compte, il y a quand même une réalité relative. Et vous pouvez aller dire à un Palestinien, mais c'est pas grave, les bombes que tu prends sur la gueule, mais c'est une illusion. Il a perdu toute sa famille, ses enfants, et tout, c'est une illusion, bravo, réconforte-toi avec ça. Mais pourquoi tu pleures? C'est qu'une illusion. Non, la réalité relative, elle est là, elle est souffrance. On doit la prendre en considération. Et ça, c'est d'abord le quotidien pour un bouddhiste. Un bouddhiste, il va développer l'égalité, être généreux, être bon, et c'est un travail sur soi. Faire attention à ce qu'on dit. Contrôler ses pensées, ses pulsions, ses désirs. Ben, des désirs, on en a. Et puis il faut être conscient quand ça s'élève et savoir que si on suit ce désir-là, attention, on risque d'avoir des problèmes. Hein? Et ça, ça devrait être la vie de tous les jours. On a maintes occasions justement de pouvoir développer les qualités dans le quotidien. C'est l'histoire du bureau de poste dont je parlais. C'est exactement ça. Moi, je voyais les gens, par exemple, qui passent au self-service avec leur plateau. Là. Vous savez, les plats sont sur le frigo, là, ils sont alignés. Ils vont toujours chercher le plat qui est derrière pour avoir le plus frais. Et puis laisser, évidemment, tout ce qu'ils jugent eux-mêmes comme étant mauvais, alors que ce n'est pas aux autres. Alors moi, je faisais le contraire. C'était un entraînement pour moi. Dans la corbeille de fruits, si je voyais un fruit attaché, je le prenais pour moi, pour laisser le meilleur aux autres. C'était mon entraînement. Je m'efforçais à faire passer les autres avant moi. Et dans la vie quotidienne, on peut faire ça.
j'aimerais revenir à votre histoire avec votre ami avec qui vous avez fait le 400 coups.
Oui.
Justement, pendant l'heure où la personne n'a fait que parler de lui pendant une heure, est-ce que à ce moment-là, on ne peut pas ressentir de la compassion, effectivement, que c'est quelqu'un qui est mal dans sa vie, qui a besoin d'occuper l'espace.
Oui.
Et plutôt, justement, lui venir en aide, en fait, et pas le juger.
Il n'y avait pas de jugement de ma part, mais il y avait une grande tristesse.
Oui, voilà.
C'est ça qui a émergé de moi. Je me suis dit, attends, je me suis dit tout de suite, mais j'espère que je ne suis pas comme ça.
C'est
et,
dur.
Je me suis dit, en effet, il y a beaucoup de frustration chez lui pour qu'il me parle de cette manière-là. Et, en fait, j'existais pas, j'étais comme un exutoire. Comme quand on va voir le psy, on s'allonge, on lui raconte toute notre vie, mais on se fout complètement de comment va le psy. C'était un peu ça. J'ai fait office de psy ce jour-là. Et moi, c'est ce qui est vraiment... Bon, j'étais bouddhiste déjà à cette époque-là, mais ce qui a apparu en moi, c'est une grande tristesse.
Pour lui.
Pour moi, pour lui, de retrouver un copain avec qui j'ai fait plein de choses, on a voyagé en mobilette, on a fait tous les châteaux de la Loire en mobilette, en 1960, vous imaginez, j'avais 14 ans, c'est exceptionnel. Tous les deux, sur notre bécane, on a fait la Bretagne, après on est parti sur la Côte d'Azur, on a fait Tour de France en mobilette, à 14 ans.
C'est Peugeot, motobécane.
Lui, c'était une Peugeot et moi, c'était une motobécane. Une mobimatique. Mais. Et je dis, je retrouve mon pote. Oh là là, je ne sentais pas heureux, bien sûr. Et j'ai même pas pu lui dire ce que je faisais. La seule chose que j'ai pu lui dire, bah oui, mais c'est sûr qu'on n'a pas la même vie. Et puis à ce moment-là, il m'a dit, mais faut pas dire ça. C'est ce souci, il m'a dit. Ah bon. Ok. Bon, ça a été une opportunité pour moi de développer la patience. Parce que je l'ai fermé pendant une heure.
Bravo.
Mais j'étais triste pour lui. C'est comme ça. Donc.
Et dans ces moments-là, après, est-ce que vous gardez contact pour essayer
Moi, je ne l'ai jamais revu, je ne savais même pas où il habitait. Il m'a raconté tellement de trucs. Il était revenu dans ce quartier, là, de notre enfance. On s'est retrouvés ce jour-là ensemble dans le même lieu. En fait, il n'y habitait plus depuis longtemps. C'est par moi, mort, il est bien ensemble aussi. Et ça s'est fait fortuitement. Bon, sans doute qu'on devait vivre ça. Hein. Alors, est-ce qu'il a tiré profit de cette situation? Est-ce qu'il a pu voir, justement, son comportement, sa manière de faire? Ça, j'en sais rien. Mais moi, ça m'a apporté quelque chose. La patience. Et la tristesse, malheureusement, aussi. Mais voilà. On apprend tout le temps. C'est ce que je dis. Quand on pense savoir, j'en entends certains, mais moi, je sais. Mais bon, comme disait mon maître, quand tu dis que tu sais, c'est que tu sais que dalle. Tu sais rien du tout. Hein? Celui qui sait, il la ferme, et puis il a rien à imposer aux autres. Et voilà, mais on a tout le temps à apprendre, on est tout le temps des étudiants, Et c'est pas parce que je suis là-bas, j'ai fait déjà des années de retraite, c'est pas parce que j'enseigne, je suis un éternel étudiant. J'apprends tout le temps des autres, de mes maîtres. Garder cet esprit de fraîcheur, justement, de jeunesse et de fraîcheur, c'est ce qui nous permet vraiment d'avancer. Parce qu'on a l'esprit ouvert, on tire un enseignement de tout. Et ça ne veut pas dire qu'on est forcément tout le temps d'accord. On a le droit aussi de... Mais ça devient, vraiment, je l'assure, beaucoup plus simple. La vie devient d'une simplicité grâce à la pratique, mais vraiment déconcertante. On a de moins en moins de désirs, on se contente de ce que l'on a, on n'est plus dans la mégalomanie, on n'est plus dans les... à vouloir être le sauveur des êtres, à être je ne sais quoi, être au pinacle, devenir le bon Dieu, devenir je ne sais quoi. On n'a pas besoin de pouvoir, on n'a pas besoin de reconnaissance. On est dans une simplicité, parce qu'on se connaît soi-même. On a fait le tour de notre personnalité, on connaît nos qualités, nos défauts. On a une connaissance, comment je pourrais dire, ça va me revenir. Et il y a cette espèce d'acceptation intérieure et de... m'échappe. On n'est plus à la recherche de quoi que ce soit. Pas plus tard qu'hier, j'ai un collègue au monastère, il me dit, ah, bon, on ne te voit pas, tu es en samadhi, en absorption méditative, post-mortem, dans ta chambre, etc. J'ai dit, je n'en sais rien ce que tu dis là, mais de toute façon, je m'en fous complètement. C'était ma réponse. La situation est simple, je veux dire, il n'y a pas à expliquer le pourquoi du comment. Ben oui, en ce moment, je suis en semi-retraite, ben voilà, avec mon âge, c'est un peu ça. Alors évidemment, il y a des choses qui s'élèvent, on continue toujours la pratique. J'avais envie de dire, mais disons, t'es peut-être pressé que je m'en aille aussi. Tu me dis si j'ai une absorption méditative, toute dame qu'on appelle de la mort, si j'ai expérimenté ça, je m'en fous. Les choses deviennent d'une simplicité, mais pour d'autres, non, c'est pas simple. Et je vous assure qu'on se sent bien, il y a vraiment, on est bien dans ses baskets quand on arrive à ça. Il n'y a aucune attente, c'est nos futurs quelque part. Il n'y a plus de passé, il n'y a plus de futur, on est tout le temps dans l'instant présent, et en plus on ne saisit même pas l'instant présent. Parce que si on fait une saisie sur l'instant présent, il devient le passé, et ça devient le bazar. Et on vit les choses d'instant en instant comme une succession d'instants présents. Et en fait, le temps lui-même n'existe pas. La pratique nous montre ça, on est tout le temps dans l'instant présent. Il se passe une chose dans l'instant, mais ce qui nous fait aller vers le passé, c'est quoi? C'est la mémoire. S'il n'y a plus de mémoire, il n'y a plus de passé. Une personne qui a atteint l'Alzheimer, par exemple, j'en ai rencontré comme ça, ils n'ont plus de passé. Une amie que je suis allé voir il y a 2-3 ans qui était atteinte d'Alzheimer, j'étais son lama, je l'ai amenée à la pratique pendant des années et des années, et quand elle arrivait, elle me disait « Bonjour monsieur ». Vous êtes qui ? Il n'y a plus de passé. Ça doit être, se rappelait même plus que j'étais, qui j'étais, qui j'étais moi, j'étais son guide spirituel. Bonjour monsieur. Il y a son mari qui venait la voir. Il disait, il y a ma soeur, qui c'est la soeur ? Ah, c'est le monsieur. C'est le monsieur. Oui, il disait, c'est le monsieur. Mais ça ne savait pas. Quoi. Donc il n'y a plus de passé. En fait, le passé est toujours relatif à notre mémoire. Si on perd la mémoire, il n'y a plus de passé. En fait, le temps n'existe pas, c'est une succession d'instants présents. Tchik, tchik, comme disait Tibétain, tchik, tchik, ils font ça dans l'instant présent. On est tout le temps dans l'instant présent. Il n'y a pas de futur. Le futur n'existe pas puisqu'il n'est pas né. Pas de passé, pas de futur. Qu'est-ce qui reste? L'instant présent. Et l'instant présent doit être vivre sans saisie, sans fixation, parce qu'on veut que l'instant présent, ce que l'on rencontre à l'instant présent, dure. On veut le reproduire, et oui. Si c'est un moment de bonheur, on veut qu'il dure. Donc là, on a fixé le présent. Là, ça commence, le parasite commence. Donc, vous voyez, on doit acquérir cette espèce de souplesse. Quand on n'a plus de désir particulier, ça ne veut pas dire qu'on devient un fantôme, ou un je ne sais pas quoi, un mannequin sans vie, mais notre vie n'est plus menée par les états émotionnels, par les fixations émotionnelles ou les fixations égotiques. On se satisfait de ce qu'il y a. Bon, et ça se manifeste aussi de manière vraiment bizarre des fois, miraculeuse. Il y a quelques années de ça, j'avais besoin d'une valise, mais une valise solide, genre centre solide, vous savez, pour voyager en avion, etc., qui ne soit pas démolie. Et puis j'étais parti à Clermont-Ferrand pour, dans l'optique, j'avais une idée de la valise que je voulais, de la taille, de la couleur, etc., comment elle est, etc., etc. Dans ce magasin où j'allais, j'étais persuadé de trouver ma valise, mais je n'ai pas trouvé la valise comme ça. Bon. Je n'étais pas trop en forme, j'étais un peu malade ce jour-là. Pas de valise. Puis j'ai dû m'apprêter à partir, j'ai fait d'autres rayons, tout ça, puis bon, partir sans valise. Puis d'un seul coup, quelque chose me dit intérieurement, retourne quand même dans le rayon où t'es allé, où il y a les valises. En plein milieu de la travée, même pas rangée sur les trucs, la valise emballée, de la taille que je voulais, de la couleur que je voulais, elle était devant moi et elle m'attendait en plein milieu de la travée. Je l'appelle depuis la valise miraculeuse. Mais quand vous abandonnez tout ça, que vous en remettez à cette force, cette nature de Bouddha, quel que soit le nom, les choses arrivent miraculeusement. C'est magique par moment. Et j'ai plein d'exemples comme ça dans ma vie qui me sont apparus, qui m'ont redonné confiance vraiment dans cette dimension d'abandon. Si on ne s'abandonne pas, si on n'abandonne pas nos machinations, nos manipulations et tout ça, on sera toujours dans les problèmes. Or, quand on abandonne, tout arrive à point nommé. Il suffit d'y penser et ça apparaît d'une manière ou d'une autre. C'est ça qui est vraiment incroyable. Donc, on n'a plus vraiment d'effort à faire, si ce n'est que de continuer dans la persévérance de la pratique. Parce que tant qu'on n'est pas arrivé au but, il faut continuer. Ça, c'est sûr. Mais les choses deviennent plus simples. Par contre, beaucoup plus subtiles aussi. Parce qu'il y a des obstacles qui peuvent venir qui sont bien plus subtils. Et si on n'a pas le maître spirituel derrière qui nous le montre, on peut passer à côté. Ça, il faut le savoir. Au départ, nos obstacles qu'on rencontre, ils sont grossiers, ils sont énormes, ils sont tellement énormes, c'est comme un éléphant ici en plein milieu du temple. Hein, tout le monde le voit. Et là, on peut évidemment, comme on le voit facilement, on peut travailler dessus, c'est tellement énorme. Mais après, plus on avance sur la voie, plus les obstacles deviennent insidieux et subtils. Et là, c'est là qu'on voit l'importance du maître spirituel. Qui maîtrise le maître qui a avancé, qui a atteint l'éveil lui-même. Là, on a besoin de lui. Parce que il y a des choses qu'on ne voit pas. Des fois, pas plus longtemps que l'année dernière, je me suis fait remonter les bretelles par le mien. Là. Un truc que je ne voyais pas, hein, vraiment. Sous prétexte d'aider les autres, d'être utile, etc., il y avait un truc que je faisais qui n'allait pas. Quoi. Lui me l'a montré tout de suite. Donc, ça a remis les pendules à l'heure, je peux vous dire. On a besoin d'être guidé parce qu'en fait, le cheminement spirituel, c'est un cheminement, une voie qu'on ne connaît pas, qui ne nous est pas familière. On ne sait pas ce que c'est. Donc on a besoin de quelqu'un qui connaisse la voie et qui nous indique le chemin. Et qui nous montre justement quand ça coince, etc. Et ça, c'est important. En fait, c'est quelque chose de très vivant. Il faut accepter aussi de se prendre des baffes. Ça, c'est moins agréable. Il faut l'accepter. C'est le jeu. Oui. Mais en même temps, quand le maître nous montre quelque chose, c'est pas dans l'intention de nous blesser, de nous faire du mal, c'est toujours ce qui l'anime, c'est une profonde compassion. Et je vois à chaque fois que mon maître m'a dit quelque chose d'assez violent, derrière, il y avait un tel amour, mais qui m'envahissait complètement de tout mon être, qui m'était donné par lui. Voilà, je t'ai montré ce que tu voulais pas voir, t'as compris, et en même temps, oh, une déferlance d'amour et de compassion. Voilà, on décolle, quoi. Et donc, c'est là où on voit la différence entre quelqu'un qui va nous montrer nos défauts, qui va projeter sa volonté ou ses propres frustrations sur nous, certes il va peut-être nous être utile, d'un maître qui lui c'est autre chose. Parce qu'il y a vraiment derrière, il y a le résultat d'une très haute réalisation et une compassion qui émane de ces êtres-là, mais c'est même à pleurer. Je me suis vu plus d'une fois pleurer en pensant à mon maître, en le voyant. Tellement ça nous envahit à l'intérieur de choses qui n'est pas humain, qui nous semblent pas humain, pourtant on l'a en nous, mais ça dépasse ce qu'on peut vivre au quotidien. Et c'est à ça qu'on rencontre, quand on reconnaît un véritable maître, celui qui maîtrise. Et c'est impressionnant. On se sent petit, mais ça ne veut pas dire qu'on doit se diminuer face à lui, parce qu'il nous dit toujours, mais on est identique, tu as la nature de Bouddha en toi. Seulement, moi je le sais, toi tu le sais pas, mais moi je le sais. Et c'est encourageant, vraiment, quand on rencontre de tels êtres. Et il y en a, heureusement. Il y en a encore. Pardon. Est-ce que vous avez des questions encore pour terminer la journée? On arrive à 4h20, 4h25. Alors demain, on se voit l'après-midi, demain après-midi pour ceux qui souhaitent venir pratiquer un peu. On pratiquera 2 heures, de 15h à 17h comme les autres fois. Le miracle. Donc, cette nouvelle formule qu'on a mis au point ici avec évidemment la grâce du vénérable, l'autorisation, quand ça fait des années que je viens ici depuis 2005 et on n'avait pas pensé à ça. Moi je pensais qu'il y avait toujours dans ce temple, toujours des rituels et des cérémonies, même le samedi matin. Et c'est Wim qui m'a proposé ça hein, l'autre fois, c'est qui m'est venu. Ah, t'es caché, oui. Et c'est lui qui nous a proposé ça à la fin, en disant, mais pourquoi vous ne viendriez pas le samedi matin? Ben, j'ai expliqué pourquoi, mais il a dit, non, il n'y a rien. Le dimanche matin, ce ne sera pas possible, parce qu'ils ont des rituels. Ben, dit, on va essayer. On va voir si ça intéresse les gens, puis apparemment. Puis le fait de manger ensemble, tout ça, c'est formidable. On peut échanger, on peut apprendre à se connaître, on peut... C'est plus convivial et ça resserre les liens entre nous tous. Et si bien que même à un moment donné, on peut même devenir des amis.
Sans attachement.
Sans attachement. Non, parce qu'après, ça devient des ennemis s'il y a de l'attachement. Oui. Mais donc, c'est une formule qui vous convient. Hein? Ça reproduire.
Oui.
Dame, elle veut la parole à Dame là. Le micro.
C'est une formule lui à renouveler et je.
Approchez le micro, s'il vous plaît.
Je me demandais est-ce qu'il pourrait y avoir de la méditation et de l'enseignement en même temps? Par exemple, méditer un peu avant l'enseignement,
oui.
Mixer.
Oui, on peut faire.
Quitte à faire un jour et demi, hein,
et à revenir. Oui, mais ça, normalement, c'est demain après-midi que c'est consacré qu'à ça. Mais c'est important que je vous dise tout ça, parce que ça, c'est la suite de l'enseignement que j'avais commencé donc, les fois précédentes. On n'aura pas abordé tous les sujets cette fois, mais je pense que l'essentiel aura été dit hein, d'une certaine manière. On pourrait continuer évidemment plus en profondeur, mais je pense que ça suffit là pour le moment. Donc l'idée c'était de commencer sur ce registre-là, et puis après, bah oui, on peut voir, puis adapter, puis faire des moments de silence. Oui, on peut faire comme ça. En tout cas, bon, je pense que c'est une bonne formule. Le week-end n'est pas pris complètement en entier, on a encore demain matin, ne serait-ce que si pour moi. Le livre, donc si c'est ok, on continue, quoi. Puis on pourra apprécier encore la bonne cuisine de ces dames dévouées qui travaillent vraiment avec une grande générosité, une grande bonté, à nous concocter des plats typiques de leur pays, avec une cuisine de qualité, des produits de qualité, mais en même temps, c'est un plus.
Donc,
elles le sont. J'ai déjà demandé, mais elles se réjouissent même de le faire. Voilà. Ah oui, parce que c'était pas. Mais c'est leur façon de pratiquer. Elles sont dans la générosité. Pour ces femmes vietnamiennes, c'est ça. Et pour elles, elles ne parlent pas français pour la plupart, mais elles manifestent leur pratique spirituelle à travers la générosité. Et c'est une pratique pour elles. Non, on ne va pas les priver. C'est une pratique. Il faut voir le bien de tous les êtres. Le bien de mon estomac et le bien des cuisinières qu'il faudrait cuisiner pour mon estomac. Voilà, en tout cas, je vous remercie de votre présence. Et puis, vous verrez pour les dates, elles ont été fixées. Elles ont pas, je pense que ce n'est pas publié encore les dates. Je vois bien, mais tout le monde est gris là. Vous êtes tous gris. Elles ne sont pas publiées encore. Hein. D'accord. Mais ça peut changer les miennes de date ou pas? Non, celles-là, elles sont fixées. C'est au mois de mars, je crois, la prochaine, non? C'est loin, hein, parce qu'après, il y a des rituels, il y a des cérémonies pour nous aussi. D'abord, il y a le jour de l'an, le nouvel an, il y a tout ça. Puis on a des enseignants au début janvier, pendant un mois. Hein, donc il y a les Kenpos qui viennent enseigner sur un thème philosophique, etc. Donc on a aussi notre activité de notre côté. Hein. Donc, voilà. De toute façon, ça sera publié avant, hein, pas au dernier moment quand même, non? Non, parce que j'ai entendu dire des gens qui... C'était des fois, au dernier moment, c'était publié un peu tard.
Non.
Non. Bon, c'est important parce que... Il ne faut pas que ce soit trop tôt, parce qu'on oublie, mais si c'est trop tard, on ne peut pas prendre cette disposition et s'en rendre disponible si on veut venir. On n'en vient pas penser, puis à ce coup, on a une obligation, et puis du coup, bah, on ne peut pas assister à l'enseignement, parce qu'on a autre chose qui est prévue. Quoi. Donc il faut que ça soit connu à l'avance, mais aussi qu'on fasse plusieurs envois. C'est deux envois, un rappel, voilà. Voilà, on va faire la dédicace de tout ça, et puis je pense qu'il y a peut-être un thé en bas qui nous attend ou quelque chose. Voilà. On est des gâteaux sans la tête.
C'est
chaud,
c'est que ça tourne, quoi, tout ça.
Mais c'est sans désir, hein. C'est sans attachement. Juste un peu, mais pas beaucoup. Une fois que c'est mangé, j'y pense plus. Oh, salam die, dumze zipani, dumze zipani, dumze zipani, egana cimara topa, isi pezzole, dolua, dolua, rozan pepa, zita ke patan, kudu sampo de yon de zit, eta ki di jesu na loji, ne wa di ta tam se lan tu hongo, ge kusu ne peji la tom, se ni bidyo de peji la tom, ge de mi che ni peji la tom, jita kowa vrlan tu hongo, merci à vous tous. Merci.